Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou je devrais dire bonjour à toutes, bonjour à tous, en tout cas, c'est pas grave. Bienvenue dans Apple différemment estival, on va prendre ça cool, on va prendre ça relax. Je m'appelle Matt, créateur de podcast et fanboy de la marque, on a dit qu'on l'utilisait plus, mais je l'utilise encore, et je suis avec ma collaboratrice, ma co-animatrice, je sais plus, mon amie Audrey Coulot, formatrice, autrice, youtubeuse Apple. Allô Audrey, comment ça va?
Allô Matt, bah, écoute Sarah, ça va bien. Pas mal de chamboulements dans ma vie en ce moment, mais ça va super bien. Je suis contente qu'on enregistre ce numéro à propos de la keynote d'Apple. Ça me paraît loin, ça fait à peine un mois, mais c'est ça vrai. Me paraît déjà loin. Il s'est passé tellement de choses. Globalement, ça va bien. Et toi, comment tu vas?
Ben écoute, alors, on va faire un petit topo météo. Je fais toujours un petit topo météo. On est au Canada, c'est un peu particulier. On a des températures incroyables. Dans l'Ouest canadien, on fracasse le 50 degrés Celsius. Alors pour dire, c'est assez fou. Il y a des incendies maintenant. Alors oui, le Canada est maintenant un pays des extrêmes. On a extrêmement froid et on a extrêmement chaud. On est bien au printemps et à l'été, à l'automne en fait. Et aujourd'hui, on a eu la canicule et aujourd'hui, il fait 17 degrés. Alors on se les gèle un petit peu. C'est particulier, les changements climatiques, je t'avouerais que c'est particulier. Je sais pas si vous avez des extrêmes comme ça en Bretagne, mais nous en ce moment, c'est particulier.
J'allais te dire justement, j'étais en train de regarder la météo là, et je crois que ça doit faire un mois qu'on est à 18-19 degrés.
Ah.
Donc on a froid, on n'a pas un beau printemps, enfin on a eu un printemps très pluvieux, et puis là on a du mal à avoir un peu plus de chaleur, mais clairement je préfère 20 degrés que 50, hein. Donc je me plains pas.
C'est clair. Puis ça effectivement ça pose toutes sortes de problèmes ici. Là, moi j'ai perdu toutes mes cultures de bleuets. Des bleuets, c'est des petits fruits qui ressemblent à des cassis. Puis les producteurs de petits fruits aussi ont perdu plein. Mais bref,
t'es pas à l'ouest du Canada, rassure-nous.
Non, c'est ça. Je suis à l'est du Canada, mais on y a goûté aussi là en termes de chamboulement climatique. C'est assez particulier cette année, je t'avouerais.
Oui.
On va voir la suite des choses. J'espère que ça sera pas ça comme ça et que c'est exceptionnel. Dis-moi, Audrey, on a des beaux commentaires. Pendant le mois de juin, on a reçu 3 beaux commentaires dans iTunes. Je vais te laisser lire le premier, je vais suivre par le deuxième. Le premier qui nous vient de Zanzim.
Ouais, Zanzim nous dit « Mon nouveau rendez-vous mensuel. Abonné aux vidéos d'Audrey, j'ai découvert ce podcast il y a peu de temps et je me retrouve complètement dans les questionnements et les réflexions qui sont abordées autour du monde de la pomme. » On fait le point sur l'actu sans forcément s'émerveiller de chaque nouveauté envoyée dans les boîtes aux lettres des influenceurs. On réfléchit sur tous les usages et OS, seulement ceux des geeks ou des graphistes. On se donne des trucs pour une meilleure utilisation de notre matériel, le tout avec une vraie sympathie et une vraie empathie qui fait plaisir. Waouh, merci!
Ouais, c'est vrai, ça fait chaud au cœur. Puis c'est vrai, hein, c'est un peu ce qu'on essaie de transmettre, surtout la partie à la fin. Où on est plus en mode inspiration. Je vais y aller avec le deuxième, trop bien de Y Langs ou Glangs ou je sais plus comment le prononcer vos noms là, c'est compliqué des fois. j'adore vos podcasts, j'apprends beaucoup, c'est génial. Vous êtes tous les deux sympathiques, vos avis sont précieux pour moi, toujours pertinents. Vous n'avez pas la grosse tête, continuez comme cela et surtout ne tenez pas compte des 2 ou 3 grincheux. Audrey, reste toi-même, on t'adore. Tout comme notre Canadien préféré, JP de Tahiti.
Hey, on nous écoute à Tahiti, c'est magnifique, hein?
Je sais pas la température là-bas, mais moi Tahiti, j'ai l'impression que j'ai toujours l'image, tu sais, des belles plages, tout ça, puis des beaux cocktails avec des petits parapluies en papier. Moi, c'est un peu ce que j'ai comme image de Tahiti.
Oui, je crois que ça ressemble un peu à ça, en toujours féerique, toujours magnifique, j'imagine, comme toutes les îles. Je crois qu'il fait beau tout le temps, enfin voilà. C'est un peu le paradis sur Terre, je crois, Tahiti. Hein.
Ouais, je le souhaite. En tous les cas, JP, tu pourras nous envoyer des photos de ton coin, ça nous ferait plaisir.
Ouais, c'est vrai, ça serait marrant que vous nous envoyiez l'endroit où vous nous écoutez. Ça serait sympa.
Ouais, surtout l'été avec vos cocktails sur le bord de la piscine, ça ferait plaisir.
Alors, le troisième commentaire, c'est « J'adore, j'adhère » de Clément. Bonjour à tous les deux, j'aime vraiment beaucoup votre podcast, les propos sont toujours pertinents, les réflexions et débats toujours bien construits. Pour ma veille technologique sur la pomme croquée, c'est vraiment une mine d'informations et une façon d'apprendre et de me faire mon avis de me faire mon avis. Il manque un bout de phrase, je crois. Eh ben, merci Clément.
Ouais, merci à tous pour vos commentaires. Effectivement, vous pouvez les faire sur iTunes, toujours 5 étoiles. Hein, vous pouvez pas mettre en dessous de 5 étoiles. Et puis, n'hésitez pas aussi, il y a un petit répondeur audio. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous laisser des messages audio. Ça fait toujours plaisir de les écouter. On va switcher sans autre forme de procès dans quelques nouvelles que j'ai retenues. Et puis, ben surtout, une application et un gadget.
Ouais, ah bah excuse-moi, mais avant ça, tu as marqué.
Oui, c'est vrai.
Les HomePod fonctionnent sur mon Apple TV.
C'est vrai, t'as raison.
Tu as réglé le problème.
Oui, ben j'ai rapproché le HomePod de l'Apple TV. Alors pour la blague, ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode, j'avais de la difficulté à avoir le son bien synchronisé avec l'Apple Télé. Alors, j'avais branché mon HomePod avec l'Apple Télé. Et quand une personne parlait, tu sais, je voyais une différence entre le son qui sortait de sa bouche et le mouvement de ses lèvres, par exemple. Alors, je trouvais ça bien triste. Et effectivement, t'avais mis un peu le doigt là-dessus, en me disant, ben, ouais, il est peut-être loin, il est peut-être éloigné. J'ai rapproché mon HomePod à quelques centimètres de l'Apple Télé. Et, depuis, c'est merveilleux. Et c'est tellement merveilleux que j'ai acheté un deuxième HomePod mini pour avoir le son en stéréo. C'est merveilleux.
Ah, super. Et je crois aussi sur Twitter que quelqu'un t'avait dit qu'on pouvait calibrer la latence dans les réglages de l'Apple TV. Donc, si vous aussi, vous avez des problèmes de latence, il faut regarder dans les réglages de l'Apple TV. Bon, bah c'est cool alors.
Ouais, ça marche, puis c'est super. D'abord, c'est beau, le son est vraiment bon, et c'est surprenant pour ces petites caisses de son-là. Non, je suis vraiment content. Et puis, oui, deuxième truc dans mon perso, j'ai commencé des cours SwiftUI. SwiftUI, c'est le nouveau framework, comment on va dire ça, la nouvelle façon de développer des applications chez Apple, et c'est vraiment vraiment cool. Je pense à transférer cette information-là parce que je sais qu'il y a peut-être des graphistes qui nous écoutent ou des gens qui sont plus dans le visuel. Et si vous êtes pas très très fort en programmation, ben SwiftUI est peut-être pour vous. Parce que si vous avez connu le développement d'applications web, tu sais, d'interfaces graphiques web, là, tu sais, quand un développeur web front-end, pour ceux qui nous écoutent, ben SwiftUI, vous allez vous y retrouver. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant pour faire des interfaces graphiques dans Swift. On peut, avec SwiftUI, on peut se développer une application qui ressemble à Instagram ou qui ressemble à toutes sortes de trucs, mais ultra, ultra, ultra rapidement. Franchement, je suis tombé sous le charme de ce langage-là et je commence certaines applications. Alors, à suivre, peut-être que je vais être un vrai développeur d'applications pour les prochaines années.
Et tu prends où tes cours alors? Comment tu te formes?
Udemy. Ouais, tiens, je pourrais relayer. C'est Mathieu. Je vais te dire le nom de mon formateur parce qu'il est bon. Tant qu'à relayer quelque chose, relayons quelque chose qui est bon. Je vais te dire ça. C'est Mathieu. Progressif.
On mettra dans les notes de l'émission, sinon.
Ouais, t'as bien raison. C'est SwiftUI pour iOS 14 et iOS 15. Il y a même une formation spéciale pour développer deux applications du début jusqu'à la fin. Alors, il y a une application météo que je vais avoir à développer, puis une autre type d'application pour le plaisir. Et non, franchement, c'est vraiment cool. C'est pour ceux qui connaissent l'interface graphique des pages web qui programment là-dedans, vous allez vraiment vous y retrouver.
Et en plus, il y a MacG qui a sorti un livre là sur de l'idée à la de la conception à la création d'une application. Enfin, les gens qui veulent se lancer, j'ai regardé, ça a l'air pas mal complet. Et je crois que c'est Florian, je sais plus qui l'a écrit, mais en tout cas sur Mac Génération, vous pouvez aussi acheter un livre numérique à ce sujet-là. Et bien sûr, bah de toute façon, des formations sur Udemy, il y en a plein. Enfin. On peut vraiment se mettre à apprendre tout ce qu'on veut maintenant avec Internet. C'est vraiment génial, quoi.
Ouais, c'est Florent Morin, le guide. C'est un guide de Mac Génération. Et c'est le titre, c'est « De l'idée au succès ». Et c'est pas... moi, je l'ai présentement et tu sais, je le feuillette en même temps. C'est pas un livre où vous allez apprendre à coder, mais c'est un livre où vous allez avoir plein de références, des bons liens, des bons trucs. Comment planifier votre création, comment la monétiser aussi. Ça peut être super intéressant. Comprendre les concepts de monétisation d'une application. Vous allez pouvoir soit vendre une application, va vous expliquer les avantages, soit faire du achat in-app, soit faire de l'abonnement, ou soit placer de la publicité. Il y a plein de bons trucs, plein de bonnes références. Le livre de Florent Morin, de l'idée au succès. Et je pense qu'en ce moment, il est pas très, très cher. Il y a une petite promo, alors n'hésitez pas. Et puis pour la formation SwiftUI que je suis, c'est Mathieu Passerel, P-A-S-S-E-R-E-L. Et ses cours sur Udemy sont vraiment chouettes. Il y en a des 40 heures, il y a des 15 heures, il y a des 5 heures. Tout dépendant de vos connaissances en programmation, ça peut être une bonne idée de le suivre. Ben voilà, on a fait de la promo pour les formations. Ça doit te faire plaisir, toi qui es formatrice.
Ah, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un parle de nos formations. Ben ouais. Oui, bien sûr.
On va y aller avec quelques nouvelles des découvertes que j'ai fait dans le mois. La première, bon, en fait, on va en parler dans les notes de l'émission, en fait, dans le sujet de l'émission principale tantôt, c'est que maintenant, on a des meilleurs contrôles dans les mails que vous recevez avec le nouveau macOS qui va arriver. Vous allez avoir un meilleur contrôle du traçage des gens qui vous espionnent. Mais j'étais surpris d'apprendre que, selon une étude qui a été relayée par Numérama, 90% des mails ouverts sur mobile sont sur iPhone. Moi, ça m'a totalement surpris. Et dans l'analyse, on dit que si on rajoute l'iPad à la consommation de mails, ça tombe à 93% de la consommation des mails se font sur appareil Apple. Moi, ça me laisse pantois, pour le moins. Je suis vraiment impressionné de ça. Et c'est pas une analyse qui a été faite sur 14 personnes. Hein. C'est 3 milliards d'ouvertures d'emails qui ont été analysées pour avoir ce résultat. Moi, ça me jette par terre. Est-ce que ça voudrait dire que les gens qui ont des appareils iOS font encore du mail, ou ils font plus de mail, ou sont plus soucieux, ou l'utilisent plus en mode travail? Je sais pas comment on peut analyser ça.
C'est vrai que moi, dans mon entourage, par exemple, les gens qui sont sur Android, ils consultent pas trop leur mail sur leur mobile. Alors peut-être que... est-ce que c'est plus compliqué à configurer? Je sais pas, mais... par exemple, moi, chez mes clients, je vois bien tous ceux qui ont des iPhones ou iPad, leurs mails sont déjà configurés, enfin, tout est bien.
Ouais.
Par contre, quand le conjoint ou quelqu'un de la famille a un Android, en général, il consulte pas ses mails sur le mobile, quoi. Ça reste un mobile, en fait. Je sais pas, c'est étonnant, mais à la fois pas trop étonnant, parce que il y a des choses qui Apple simplifie, notamment au niveau de la configuration des emails, quand tu configures tes mails sur un de tes appareils. Mmh. Et que tu configures un autre appareil Apple, bien sûr, tes configurations, elles passent d'un appareil à l'autre. Donc, il y a une automatisation qui est faite déjà rien qu'en configurant avec ton identifiant Apple, ton nouvel iPhone ou ton nouvel iPad. Donc, peut-être que ça simplifie et que ça aide du coup à ce que les mails soient plus consultés sur ces appareils-là que les autres.
En tous les cas, moi, je... cette nouvelle-là m'a laissé béat d'admiration, parce que bon, ben, ça veut donc dire que si vous avez des gens qui ont des appareils Apple et que vous leur écrivez par courriel, ils vont nécessairement le lire. ça me donne un peu cette idée-là. Vous informez de la personne, quel type de téléphone elle a, est-ce que je peux t'écrire par mail, puis après ça, vous savez si elle va le lire ou pas. On va dire ça comme ça. Je vais te relayer un gadget que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Ça s'appelle Night Watch. C'est pour ceux qui ont une Apple Watch, vous savez, quand vous avez l'Apple Watch et que vous la rechargez la nuit, si vous la rechargez la nuit, vous êtes en mesure de mettre un mode pour que l'Apple Watch se mette en réveil. Hein, ça affiche de manière horizontale sur l'Apple
le
Watch.
Le mode table de nuit.
Le mode ouais. Excellent.
Le mode table de nuit, ouais.
Et bien là, c'est un appareil, en fait, c'est même pas un appareil, c'est une loupe, une grosse loupe dans laquelle vous glissez votre Apple Watch et qui va magnifier, qui va grossir votre Apple Watch, et ça va devenir un vrai radio-réveil.
C'est trop bien.
C'est aussi stupide qu'une loupe, mais c'est tellement bien fait que je voulais la relayer. Bon, ça coûte un petit peu cher, c'est $76, mais si vous calculez le fait que vous avez quelque chose de beau, de design, ben ça peut faire le travail, et puis vous n'avez pas besoin d'acheter un autre appareil électronique, et ça fait office de chargeur en même temps. C'est chouette quand même.
Ouais, c'est une bonne idée. Attends, le chargeur, c'est celui de ton Apple Watch, hein.
Ouais, c'est ça.
Il y a même pas... En fait, ils te vendent une boule en verre.
C'est ça.
Qui permet d'accueillir l'Apple Watch. Et c'est trop malin, en fait. Ils sont malins. Ils sont malins, mais en tout cas, ça a l'air... Enfin, c'est très joli. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. La Night Watch. Ouais.
Amateur de produits Apple, vous aimez l'esthétisme, alors vous allez être servi avec ce petit bidule, cette loupe, ce radio réveil, mais qui n'a aucun élément électronique. Dernier truc que j'ai retrouvé ce mois-ci, une application pour Mac. Je te la partage. Ceux qui ont, comme moi, plusieurs navigateurs sur votre Mac. Ben, des fois, quand vous cliquez sur un lien dans vos notes, quand vous cliquez un lien dans un Word ou dans un Page ou dans un Keynote ou en dehors d'un navigateur, ben, des fois, ça ouvre le navigateur par défaut. Et c'est peut-être pas nécessairement le navigateur que vous auriez voulu pour cet élément-là. Je m'explique. Vous cliquez sur un lien, ça ouvre Chrome. Parce que vous l'avez mis comme navigateur comme par défaut, mais vous vouliez peut-être prendre Safari. Alors, vous êtes obligé de copier le lien, ouvrir Safari, coller dans Safari. Ben, j'ai trouvé un élément qui va peut-être vous aider. Ça s'appelle Browserus. C'est Browserus. Vous cliquerez dans les notes de l'émission. Ce que ça fait, c'est que pour chacun des liens que vous allez cliquer dans macOS, ça va vous demander sur quel navigateur vous voulez l'ouvrir. Et je trouve ça juste... au niveau productivité, super cool. Moi, ça me sauve du temps tous les jours. Il y a des fois des liens que je vais ouvrir dans Chrome, des fois je vais les ouvrir tout simplement dans Safari, et ça, ben, ça me donne le choix à chaque fois que je clique. Vraiment cool.
Ouais, c'est chouette. C'est bien pour les gens qui, ben, surtout les créateurs du web ou les développeurs, voilà. Et tout ça, ouais. Ouais, parfait, voilà. Ça va être bien pour eux.
Alors, on donne plein de petits trucs aux développeurs de web ou développeurs tout court en ce moment, c'est vraiment chouette. Et ben justement, on va faire le lien. Qui dit développeur dit conférence pour la WWDC, qui est une conférence d'Apple pour les développeurs, qui est fait par les développeurs. Et ben ça a eu lieu il y a quelques semaines, la WWDC 21. Grosse conférence, très dense. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que c'était excessivement dense. Moi, j'ai adoré cette conférence-là qu'on a eue, mais il y a beaucoup d'éléments et notre podcast dure une heure et demie. C'est sûr qu'on va pas avoir tous les éléments qui vont bien aller. On a essayé de faire de notre mieux. Audrey, ben, je te laisse commencer parce que tu voulais nous parler de l'intro de la WWDC.
Alors oui, j'ai marqué sacrée introduction, ouais. Mais je t'avoue que j'ai complètement oublié. C'est incroyable. Je te dis, là, j'ai vécu des semaines assez mouvementées et je ne me souviens plus pourquoi j'ai marqué ça. Certainement parce que ça m'avait fait rire. Je suis désolée, je me souviens pas.
Ah, il y a pas de problème. Écoute, c'était en fait, on demandait à des développeurs comment ils verraient l'introduction qu'il faudrait faire. Alors bon, ben il y en avait un qui voyait la DeLorean, il y en avait un autre qui voyait plus dans des modes spectacle et ainsi de suite. C'est vrai qu'on n'est pas rentré tout de suite dans le vif du sujet. On était plus dans un mode scénarisé au début, un mode scénarisé qui va super bien avec les nouvelles conférences parce que c'est vachement bien fait, très bien produit, très, très qualitatif. Je suis beaucoup de conférences technologiques de par mon travail et de par mon intérêt. Et c'est le top, hein, c'est le top Apple en termes de présentation de produits, d'éléments et ainsi de suite. Là. Je sais pas si tu t'ennuies des présentations sur scène qui plantaient ou qui avaient des temps de mais moi, je m'en ennuie pas du tout.
Non, c'est vraiment, enfin, depuis qu'Apple fait des conférences, enregistré, on va dire, c'est sûr que c'est calibré au millimètre, qu'il y a rien qui dépasse et tout ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Là, cette année, j'ai trouvé que c'était vraiment très rapide, le rythme était soutenu. Ouais. Je n'ai pas la quantité de nouveautés qu'ils ont présentées, mais habituellement, ils en présentent quand même pas mal. Et il y en a qu'on découvre au fur et à mesure des bêtas et on découvre des choses dont ils nous ont pas parlé. Là, il y a quand même un gros pas en avant qui est fait, avec des fonctionnalités qui seront disponibles sur Mac, iPhone, iPad, donc il y a des choses communes. Donc c'est vrai que nous, Mathieu et moi, là, on a listé toutes les nouveautés qu'on a notées au fur et à mesure de la conférence. Il y a vraiment, en effet, beaucoup, beaucoup de choses cette année. J'avoue que j'étais un peu, tu sais, il y a un moment, tu manques un peu de souffle. Tu vois, tu regardes et tu fais, merde, il faut pas que j'oublie de respirer parce que ça va trop vite. Et... voilà, c'était quand même très, très chargé cette conférence.
J'ai le même sentiment que toi. Alors, on va parler d'éléments qui sont en mode bêta que monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas nécessairement installer pour le moment parce qu'il va y avoir une bêta publique qui va arriver. Alors, je vais faire les mises en garde d'usage. Il y a des bêta publiques qui vont arriver. Je recommande pas nécessairement les premières versions pour tout le monde. Là, il y a les bêta développeurs. On en est rendu à la deuxième bêta pour plusieurs systèmes. Mais la bêta publique s'en vient bientôt. Je vous recommanderais peut-être pas tout de suite la bêta publique. Peut-être au mois de fin août, peut-être que vous pourriez commencer à regarder des bêta publiques. Surtout si vous avez juste un appareil, puis c'est des appareils de production. Faites attention. Il y a des fois des trucs qui fonctionnent pas avec ça, ces bêtas-là.
Ouais, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais préciser, en fait, dans la WWDC, il y en a que WWDC 21, Apple présente les prochaines versions des systèmes qui font fonctionner nos appareils Apple.
Voilà.
Donc, ça sera pour l'iPhone iOS 15, pour l'iPad iPadOS 15, et pour le Mac, ça sera macOS Monterey, avec l'accent. Et donc, en effet, ce qu'on appelle des bêtas, c'est des pré-versions que les développeurs peuvent utiliser pour
tester leur
application. Il y a des gens, même dans le grand public, qui arrivent à installer les bêtas, même si légalement il faut un compte développeur, il y en a qui arrivent quand même. Mais clairement, les bêtas, c'est bien des systèmes qui ne sont pas stables. Donc forcément, si vous installez des bêtas et que ça fonctionne pas bien, en fait, c'est normal, puisque ce sont des bêtas. Donc sinon, vous pouvez, si vous êtes vraiment très sage, attendre les sorties officielles, des versions officielles, des versions définitives, c'est en général à l'automne, comme tous les ans chez Apple. Donc on va, dans cet épisode, vous parler des nouveautés qui ont été présentées pour les différents systèmes. On commence par iOS 15.
Allez, vas-y, on commence.
Alors il y a eu un gros coup de projecteur sur FaceTime, et je trouve que c'est vraiment une mise à jour que moi j'attendais avec impatience pour différentes raisons. Donc FaceTime, que ce soit sur le Mac, l'iPhone ou l'iPad, va vraiment avoir des fonctions supplémentaires. Alors, il parle du spatial audio. Donc en fait, c'est pour... ils ont dit que c'est quand même pour éviter la fatigue, parce que quand on est en conversation audio avec des gens, audio, vidéo, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'est pas aussi bien que quand on est dans la même pièce que la personne. Il y a quelque chose d'un peu tendu, quoi, tu vois, au bout de, si on parle une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec quelqu'un. Donc l'audio spatial, ça va rendre un son plus naturel, donc comme si on était dans la même pièce. Donc ça, ben on a hâte de tester, bien sûr. Et puis il y a aussi l'isolement de la voix, donc ça va bloquer les bruits ambiants, donc ça c'est bien aussi pour nos oreilles, hein, tant mieux. Il y a aussi une petite présentation qui va changer avec la vue grille, qui va permettre d'avoir non pas les gens en différentes tailles, mais une espèce de vue en grille où tout le monde aura la même taille. Bon, ça c'est plus de l'esthétique, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mode portrait aussi, qui va permettre de flouter notre arrière-plan. Donc si on a un bureau en désordre, c'est pas mal. Mais ça encore, c'est pas nouveau, parce que même Skype le propose depuis longtemps. Donc c'était des choses qui auraient déjà dû être là, j'ai envie de dire.
Disons que c'est une mise à niveau. On a eu la pandémie, utilisé de plus en plus ces outils-là, et FaceTime n'avait pas le choix, là. Il était très, très loin en arrière. Même si la qualité de FaceTime, je dois l'avouer, là, est quand même supérieure, je trouve, à d'autres outils de visioconférence pour le son ou pour le visuel. Ouais. Il y avait quand même une mise à jour à avoir, et à faire du côté de chez Apple.
Alors, FaceTime était plutôt basique, on va dire. Même si la qualité était bonne, il y a des fonctions qui manquaient.
Ouais.
Donc là, c'est bien. En fait, FaceTime va se remettre un peu sur le même niveau que les autres messageries, quoi.
Puis, il y a une grosse nouveauté qui est arrivée, c'est les liens FaceTime en dehors de FaceTime. Oui. Est-ce que c'est déjà une ouverture d'Apple vers les autres plateformes? Je ne sais pas, mais au moins maintenant, vous allez pouvoir faire du FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'appareil Apple. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bienvenu. Toi, Audrey, ça t'arrive probablement moins souvent que moi, mais moi, j'ai quand même des fois des FaceTime que je peux pas faire parce que il y a Robert qui est le seul à pas avoir un iPhone et ça m'énerve.
Alors, Robert, si tu nous écoutes, tu vas pouvoir faire du FaceTime maintenant via ton navigateur. j'utilise Messenger, en fait. Si, ouais. Y a trop de différences entre les appareils, ben, Messenger, C'est quand même une, même si j'aime pas trop Facebook et compagnie, ça marche quand même plutôt bien. La qualité vidéo est pas terrible, mais bon, ça marche sur tous les appareils, donc c'est la solution la plus simple à mettre en place, quoi.
Mais maintenant, avec FaceTime Link, là, on va pouvoir envoyer un lien par courriel ou par SMS et la personne va ouvrir ça dans son navigateur Android ou son navigateur Windows ou sur Chrome OS et puis là, va participer au FaceTime comme les autres. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Évidemment, on a remis une couche de sécurité, FaceTime crypté de bout en bout, protection pour la vie privée, on s'en doute. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un espionne maintenant sur votre réseau, ben il pourra pas rien attraper ou pourra pas rien voir de ce que vous faites dans votre FaceTime. Et puis, il y a un élément qui est assez chouette, le partage d'écran. Hein? On va pouvoir partager son écran quand on fait du FaceTime. Bon, exemple pour tout ce qui est audio, quand vous écoutez de la musique, quand vous écoutez des applications comme Netflix ou Disney+, vous allez pouvoir écouter les choses avec les gens.
Ouais, en fait, il y a deux choses différentes dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager l'écoute d'un album, d'un morceau de musique ou le visionnage d'une série. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent SharePlay. Mais il y a un truc que j'aurais dû mettre dans les nouveautés proprement à FaceTime, c'est le partage d'écran en lui-même. Et ça, franchement, mais merci Apple. Parce que tu vois, depuis le Covid, moi, je fais des formations à distance. Le partage d'écran, actuellement, il est autorisé que sur Mac. Donc tu peux prendre la main et voir l'écran de quelqu'un sur Mac, mais sur iPhone, iPad, Apple l'autorisait pas, ou alors via TeamViewer, mais c'était compliqué. Donc là, on va pouvoir appeler quelqu'un en FaceTime et lui demander de partager son écran et il apparaîtra chez nous. Et ça, franchement, ça va simplifier tous les gens qui font du dépannage ou qui aident leur papy, leur mamie, leurs parents à utiliser leur iPhone. Ça va être génial. Et rien que pour ça, j'ai fait un bond parce que j'étais trop heureuse de voir cette nouveauté et que ce soit intégré, que ce soit simple à utiliser. Parce que tu vois, le partage d'écran qu'on pouvait faire avec TeamViewer sur iPhone, iPad, il fallait que la personne à l'autre bout ouvre le centre de contrôle, lance l'enregistrement de son écran, aille dans TeamViewer, fasse un code. Enfin, c'était compliqué pour quelqu'un qui sait déjà pas se servir de son appareil, tu vois.
Voilà.
Et je l'ai quasiment jamais utilisé TeamViewer sur iPhone, iPad avec mes clients parce que c'était trop compliqué. Si tu prends 10 minutes pour prendre la main sur l'écran de quelqu'un, c'est déjà 10 minutes où t'avances pas et où c'est du temps perdu, quoi. Et du coup, là, je sais que...
C'est même frustrant pour la personne à l'autre côté, là, qui comprend pas, puis qui se fait dire des manipulations. Ah, je comprends, ouais.
C'est ça. Donc là, c'est vraiment une super bonne nouvelle et le partage d'écran, du coup, il sera intégré dans FaceTime sur tous les appareils, donc ça va être trop bien, quoi.
Ouais, et puis ce qui est juste incroyable, c'est que cette fonctionnalité-là existe chez Apple pour les tablettes et les téléphones depuis bien longtemps. Hein. Quand vous appeliez au Apple Care ou vous appeliez au support Apple, ils vous envoyaient un lien et vous pouviez partager déjà votre iPhone et votre iPad facilement. Mm. Alors c'est juste de l'avoir démocratisé pour Monsieur, Madame, tout le monde. Comme tu dis, là, il était temps que ça arrive et ça va ouvrir des possibilités pour les formateurs comme toi ou des gens qui aident les autres comme moi de ma famille, par exemple, avec les appareils Apple, ça va vraiment être chouette.
Ouais, c'est clair. Juste pour revenir sur le partage d'écoute musicale ou de séries, est-ce que toi, c'est un truc que tu vas faire, tu penses?
Écoute, ce que je pense, c'est générationnel, ce truc-là, parce que moi, je ne le fais pas, mais je vois mon fils faire des trucs des fois avec... Il commence sur son iPod Touch, il commence un Messenger vidéo audio, après ça, il prend sa Switch, puis là, chacun joue à Fortnite, mais chacun aussi a son iPod Touch pour se parler. Je comprends pas trop un peu ce truc-là. C'est clairement générationnel dans mon cas, mais visiblement, ça répond à un besoin que certains avaient. Là. Toi, est-ce que tu le fais?
Ben non, pas du tout. C'est pour ça que je te posais la question. Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, mais qui va faire ça? Et après, je me suis dit, Audrey, t'es trop vieille, laisse tomber, c'est pas pour toi.
Ça, c'est clair. Je pense qu'on vient de prendre on a notre Waterloo là, en ce moment. Là. On est trop vieux pour cette fonctionnalité-là. Bonne nouvelle, ça va venir pour les jeunes. Mec. On est content pour eux. C'est l'idée de pouvoir partager et visionner en même temps des séries télé, des films. C'est un élément qui va être fonctionnel bon, ce que j'ai vu dans la présentation sur pas mal toutes les plateformes, il manque Netflix. Je sais pas si ça va être sur YouTube, mais ça va arriver probablement parce que les développeurs peuvent l'intégrer.
Ben, en fait, j'ai trouvé que les grosses nouveautés qu'ils ont présentées, c'était quand même des nouveautés conséquentes au Covid, en fait.
C'est clair.
Partager, améliorer FaceTime, partager son écran, partager ce qu'on est en train de faire parce qu'on peut pas être chez les gens. Enfin, il y a vraiment un lien, une ligne, vraiment un fil conducteur entre tout ça. C'est vraiment les confinements qu'on a vécu, le Covid, l'éloignement. Donc, ils rendent les choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus facilement partageables. Et comme là, dans l'application Message, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle Share with You et qui va permettre de voir directement des éléments envoyés par nos amis ou par notre famille. Et tout ça va être intégré dans messages, photos, musique. Enfin, tout ça, ça va... Maintenant, on aura un accès. Qu'est-ce que ma famille a partagé avec moi, quoi. Ça sera plus accessible. Donc, ouais. Encore une fois, c'est... Voilà, c'est aussi lié à tout ce qu'on a vécu en 2020-2021, quoi.
Ouais, et puis c'est pas fini parce que là il y a beaucoup d'entreprises qui ont emboîté le pas du télétravail. Il y a des changements au niveau de notre société, ce qui fait que c'est pas une réponse en retard d'Apple, c'est une réponse qui va fonctionner pour tout le temps d'après moi. Alors moi je suis vraiment agréablement content d'avoir toutes ces fonctionnalités là. Au niveau de messages, nouvelle présentation, t'as indiqué possibilité d'épingler des éléments dans messages pour les retrouver plus facilement après. C'est vrai que des fois c'est un sacré foutoir dans message, en tout cas dans le mien. Et puis là, ça c'est bienvenu pour s'y retrouver. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans message que tu voulais relayer?
Non, je crois que c'était tout pour iOS 15. Pour message, je crois que c'est tout. Focus. On en découvrira de toute façon plus dans les mois à venir.
Ouais, c'est ça. Là, faut comprendre que c'est les premières bêtas qui arrivent. Alors effectivement, il y a ces éléments-là, mais il y a peut-être aussi des éléments qu'on découvre au fur et à mesure que les développeurs testent. Un élément qui est revenu, que je pense qui était très nécessaire, c'est on va l'appeler une fonctionnalité, ça s'appelle Focus. Qu'est-ce que c'est, Audrey, Focus?
Alors, c'est concentration en français, mais j'aime bien focus. Je préfère... en plus, c'est vrai que même en français, on utilise le terme « faut rester focus ». Enfin, voilà, bon. C'est un mot qui est un peu dans le langage courant maintenant. Alors, en fait, focus, on va dire que c'est une version 10 000 fois mieux que ne pas déranger. Parce que la fonction ne pas déranger, vous savez, c'est la petite lune que vous activez dans le centre de contrôle et qui permet, comme là, moi, je l'ai activée pendant qu'on enregistre, comme ça, peu importe si mon téléphone sonne, si je reçois des SMS, il y a aucun appareil qui fait du bruit et je suis pas dérangée. Les limites de ça, c'est qu'on avait tendance parfois à oublier qu'on avait activé le mode ne pas déranger. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et donc, focus, c'est génial parce qu'on va pouvoir créer des temps. Ou par exemple, on va dire, bah, de telle heure je travaille, donc je ne veux être dérangé que par telle ou telle personne, et je ne veux recevoir des notifications que de telle ou telle application. Et moi, j'imagine qu'une fois que j'aurai pris le temps de bien configurer tout ça, je vais vraiment avoir des heures dans la journée où je vais accepter de recevoir les notifications Messenger, par exemple, entre midi et deux. Par contre, si je suis en train de travailler et que je reçois des notifications Messenger, clairement, la moitié du temps, ça m'agace. Donc je mets même pas en silencieux, je mets en ne pas déranger, mais après je loupe des appels des clients, tu vois. En fait, il y avait un truc qui allait pas dans l'utilisation, on va dire, de nos appareils dans le milieu professionnel, je pense qu'on peut le dire. Et là, Focus va vraiment nous permettre de configurer ça aux petits oignons, ça va être génial.
Ouais, et puis ça va, comme tu l'indiquais, ça va être synchronisé dans tous nos appareils. Alors ça va être chouette. Ça va, il y a une intégration pour les AirPods, AirPods Pro. J'ai hâte de voir ce que ça va dire. Il y a aussi une intégration, je l'ai mis plus bas, avec Shortcut. Shortcut, vous allez pouvoir faire des raccourcis en fonction de votre focus. Alors, si vous êtes en mode ne pas déranger personnel, travail, conduite, vous allez pouvoir faire des raccourcis qui vont vous aider et qui vont vous aider de paramétriser tout ça. Alors, évidemment, moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'est plus dans un monde binaire, c'est-à-dire je peux être dérangé, je peux ne pas être dérangé. Là, c'est en fonction de ce qu'on fait. Je trouve ça chouette. L'élément qui m'agace toujours dans ces choses-là, un peu comme la domotique, je te dirais, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup de temps pour que ça soit efficace. J'aurais aimé certains pré-réglages ou des choses qui me soient présentées. Je sais pas toi, mais je trouve que ça va être encore une fois des éléments à configurer. Je trouve ça lourd des fois.
Ouais, mais bon, tu vas le faire. Imagine, Focus, tu vas peut-être le configurer que pour ton temps de travail, par exemple. Et du coup, tu vas le faire une fois, ça va te prendre un quart d'heure et voilà, ça sera ouais, réglé. Après, imagine, par exemple, pour les contacts, quels sont les contacts qui peuvent me contacter de 8h du matin à midi? Je suppose que ça va être basé sur un groupe de contacts. Et on va pouvoir autoriser, j'espère, un groupe de contacts et non pas un contact un par un.
À la fois, ouais.
Voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être enfin intégrer les groupes de contacts dans iOS 15, ce qui serait plutôt pas mal parce qu'actuellement on peut les utiliser, mais il faut les créer sur un Mac ou depuis iCloud.com, donc c'est un peu galère. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Et puis à partir du moment où, par exemple, on ajoutera un nouveau collaborateur dans le groupe de contacts qui est autorisé dans Focus, je pense que ça se mettra à jour tout seul, tu vois. Il va y avoir forcément une logique pour éviter que dès qu'on change d'équipe ou dès qu'on change de collègue, qu'on doive tout reconfigurer. J'espère.
Ah, tu vois, là, ça fait plus de sens de pouvoir configurer avec des groupes. J'espère que ça va pouvoir se faire. C'est vrai que les groupes dans les contacts, c'est galère. Hein? Ça peut juste se faire sur un Mac. Tu dis
ou
sur
iCloud.com.
Ah ouais, ok.
Mais
ah,
pas ouais. Depuis l'iPhone. Enfin, il y a bah, d'ailleurs Sylvain Gamen qui a développé une application qui s'appelle Mes Groupes et qui marche super bien et qui permet de créer des groupes de contacts sur l'iPhone. Et son appli, elle coûte 3-4 euros, donc c'est vraiment indispensable si vous voulez bien configurer vos contacts et que vous n'avez pas de Mac ou d'iPad, quoi.
Ça s'appelle Mes Contacts. Ok, je vais me garder ça.
Mes Groupes. Ouais.
Mes Groupes. Ok. Alors, je me garde ça en note, en live comme ça. Ensuite, dans les nouveautés, on va essayer d'accélérer. Un gros pan aussi des présentations, c'est photos. Hein. Maintenant, on peut faire des affaires assez cool avec photos. Je te laisse les décrire.
Alors, la grosse nouveauté qu'ils ont présentée, c'est la reconnaissance de texte dans les photos. Par exemple, vous prenez une devanture de magasin en photo, vous allez pouvoir voir qu'il y a une détection au niveau du nom du magasin ou de ses horaires ou tout ce que vous prenez en photo et qui contient du texte, vous allez pouvoir le sélectionner, le copier, le coller et même le traduire. Donc ça va être bien. Et ça sera aussi des détections d'éléments intelligents, donc par exemple les numéros de téléphone. Vous prenez en photo un numéro de téléphone, il vous suffira d'appuyer sur la photo sur le numéro de téléphone pour pouvoir passer un appel. Donc c'est des choses qu'on pouvait faire déjà avec ScanSync. J'en avais parlé de cette application.
Ouais, ouais.
Mais là voilà, en gros maintenant ça va être intégré dans Photo sur tous les appareils et ça va être génial parce que on aura donc cette possibilité de sélectionner du texte et d'en faire plein de choses. Mais on pourra aussi où est-ce que j'ai noté ça? Je sais plus, mais en tout cas, on pourra aussi il y aura une détection des éléments de la photo. Par exemple, si tu prends un livre en photo, tu pourras appuyer sur un petit i, une petite bulle qui va apparaître sur la photo, et ça va te donner le titre du livre où tu peux l'acheter. Enfin, c'est comme si les photos devenaient intelligentes, en gros, et qu'on pouvait exploiter toutes les données qui se trouvent sur la photo qui a été prise, quoi. Donc, ça va être vraiment hyper intéressant au niveau de ça. Et puis, j'avais noté aussi que oui, maintenant on va enfin avoir les métadonnées des photos sous les photos.
Ouais.
Ça aussi on attendait depuis longtemps et on va pouvoir donc changer la date et l'heure sur les photos directement et non plus passer par une application tiers comme je le faisais avec Exif. C'était une petite appli qui permettait de changer la date et l'heure, mais là on va pouvoir le faire maintenant directement dans l'application photo, donc c'est aussi une bonne nouvelle.
Je t'écoute, puis je me questionne aussi sur à chaque nouveauté qui arrive dans les applications existantes d'Apple, ça retire quand même un marché à certains développeurs. Hein. C'est fou.
Ben oui. ScanSync, par exemple, ils venaient de sortir leur appli. Ça a cartonné. J'ai fait un tuto sur YouTube qui a cartonné parce que les gens ont trouvé ça génial. On pouvait prendre une photo, scanner un livre et puis récupérer le texte. Enfin, c'était vraiment bien. Et là, bah, malheureusement, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est tous les ans. Hein. Tous les ans, ouais. Apple. Alors, est-ce qu'ils rachètent des applis? Ça, ils le font de temps en temps. Là, pour ça, je sais pas si ça a été fait. Mais je pense pas qu'ils ont le culot de piquer les idées et puis de dire aux développeurs, ton idée, elle était cool. Salut, quoi. Tu vois?
Ben, pour l'application météo, c'est une équipe qui ont racheté, hein. C'est une application qui ont racheté puis qui vont adapter parce que l'application météo va se mettre à jour. Je sais pas si c'est vrai pour toutes les fonctionnalités, ça, t'as raison. C'est délicat. C'est vraiment un jeu délicat entre améliorer son écosystème de produits, pour une marque et après ça, ben, peut-être casser le marché de certaines autres. C'est particulier.
Ce qui est compliqué aussi, je trouve, c'est que là, par exemple, rien que dans l'application photo, le bon qui a été fait déjà l'an dernier avec les nouvelles présentations, les nouvelles options, des détections des visages et tout, enfin tout ce qui a été fait rend l'application de plus en plus complète, mais aussi de plus en plus complexe, j'ai envie de dire. Et parfois, il y a des gens, aujourd'hui, moi j'ai des clients qui me disent oui, ben c'est bien, mais par contre, il y a trop de fonctions, c'est compliqué.
Et d'accord, je suis d'accord. C'est la réflexion que j'ai souvent. Nous, on a eu la chance de commencer avec les premières versions d'iOS et puis on a évolué, tu sais, année après année, on ajoute des fonctionnalités à nos usages qui sont dans les applications. Une personne qui arrive aujourd'hui, ça peut être compliqué, toutes ces fonctionnalités-là, ce qui fait que peut-être une application indépendante, ça peut faire aussi très bien le travail pour ces personnes-là. Tu sais, on disait, hein, au début, il y a une application pour ça, c'était le slogan. Il y a toujours une application pour ça de l'App Store. Oui, je suis assez d'accord pour les nouvelles personnes. En même temps, elles sont assez discrètes, ces nouvelles fonctionnalités-là. Elles embarrassent pas l'interface, ce qui fait que peut-être que c'est encore accessible à iOS, on va dire ça comme ça. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question.
C'est quand même à surveiller et à un moment à se demander si... le succès que l'iPad a eu, par exemple, pour sa simplicité, est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas le perdre, ce succès et cette simplicité, parce que nous, en tant que geeks et passionnés, on veut toujours plus de fonctionnalités. Après, est-ce que c'est ce que le grand public et les gens qui sont pas doués en informatique cherchent? Je suis pas sûre. Mais peut-être qu'un jour, Apple fera un OS, iPadOS senior, j'en sais rien, tu vois, un truc simplifié qui a mis un peu, c'est pas trop connu, mais sur le Mac, on a un Finder simplifié, je sais pas si tu sais, qui permet, en fait, d'avoir un dock très minimaliste, des fonctionnalités très réduites, et c'est une fonctionnalité liée au contrôle parental, mais elle peut servir pour des gens, des seniors qui ont peur de faire des bêtises et qui savent pas trop utiliser leur ordinateur. Peut-être qu'un jour, on aura ce genre de version du système qui apparaîtra, je sais pas.
Il y a ça sur macOS.
Ouais. Tu vas voir dans le contrôle parental et tu peux créer une session, pas forcément pour un enfant, hein, pour ta grand-mère ou je sais pas, pour quelqu'un, et du coup, activer le Finder simplifié. Et du coup, ça réduit vraiment les possibilités de faire des bêtises. C'est vraiment hyper bien conçu. Et ça existe sur Mac depuis super longtemps, ouais.
Ah cool, ok, mais là tu m'apprends quelque chose, c'est vraiment chouette, je vais peut-être l'utiliser d'ailleurs. bon, rapidement, d'autres nouveautés qui sont arrivées sur Wallet, Météo, Plan, qu'est-ce qu'on en a retenu le plus là-dedans?
Bah, tu l'as dit, une nouvelle app météo plus complète, ouais, l'intégration des clés numériques dans Wallet, donc les clés de maison, d'hôtel, etc.
C'est juste aux États-Unis par exemple, ouais.
Ouais, pour l'instant. Et puis dans Plan, Plan toujours plus beau, toujours plus brillant, un mode nuit. Pour les AirPods Pro, ben là, je vais te laisser en parler parce que moi, je n'en ai pas. Donc, si tu veux annoncer.
Alors, dans les AirPods Pro, il y a maintenant une amplification des conversations, on va dire ça comme ça en français, ça permet de mieux entendre parmi la foule quand il y a des éléments bruyants, ce que les gens vont vous dire. Ça peut paraître un petit peu stupide, vu de la France, peut-être vu du Canada, où ben, on a une aide médicale, on a des orthèses qu'on peut se faire offrir assez facilement avec nos assurances ou des choses comme ça, mais aux États-Unis, c'est pas nécessairement le cas, ce qui fait que cette fonctionnalité-là, je la trouve bienvenue, parce que ben, des AirPods, c'est 250$, pas besoin d'une prescription, pas besoin de quoi que ce soit. Et pour des personnes malentendantes, ça peut très bien faire le travail. Alors, la personne met les AirPods dans l'oreille, met la fonctionnalité conversation boost, et vous allez pouvoir... les AirPods vont se concentrer sur ce qui est sur les voix plutôt que les bruits, ce qui fait que dans une foule, ce qui fait que dans un environnement plutôt bruyant, vous allez entendre beaucoup mieux les voix des personnes. Ben, en plus d'être un appareil pour les audiophiles, Non, peut-être pas les audiophiles, je vais m'en reprendre. Un appareil pratique pour les gens qui veulent écouter la musique, ça devient aussi un appareil, on va dire, de santé. C'est un peu l'orientation, d'ailleurs, qu'ils veulent donner.
Hein. Ouais, c'est un peu une prothèse auditive, hein, vu comme ça, et vu comment ils l'ont présenté avec un monsieur qui était assis à une table de restaurant, si mes souvenirs sont bons, et il avait du mal à entendre la serveuse. Et en fait, il a activé la fonction, et du coup, on voyait de son oreille comme un faisceau, en fait, vers la serveuse. Et ça, pour moi, c'est presque une prothèse auditive, hein, du coup.
Ouais.
Ouais. Mais c'est bien. C'est vrai que t'as raison. Nous, en France, encore que les appareils auditifs sont très chers, même pour les, même avec la sécu et tout, il y a quand même, ça coûte quand même assez cher. Donc, en effet, là, Apple va peut-être sur ce marché-là de la santé. Encore une fois, ça nous étonne plus maintenant.
Non, ils y vont à fond et puis c'est bien, c'est bienvenu. Siri va pouvoir maintenant, quand vous avez vos AirPods, pouvoir lire les notifications importantes et urgentes. Elle faisait déjà ça pour les SMS, les iMessage, ça c'était cool. Vous pouviez aussi lui demander de lire votre calendrier et vos mails, mais là vous allez pouvoir avoir les notifications importantes quand vous mettez ça sur l'oreille. Je pense aux malvoyants, je pense aux non-voyants, ça va quand même être sacrément chouette pour eux des fois. Un élément qui est, pour moi, qui est un handicapé, je suis un handicapé du rangement, je ne range pas bien mes choses et je me rappelle jamais où je range mes choses. J'ai acheté un AirTag pour mettre ça sur mes AirPods et je l'utilise à peu près 8 fois par jour pour retrouver mes AirPods. Ben là, on va pouvoir voir l'application, en fait, localisation des AirPods directement intégrée, ce qui fait que je vais bientôt avoir un AirTag de libre. Dès que vous vous séparez de vos AirTags, ça sonnera et ça pourra vous avertir. Ça, c'est chouette. Et puis, audio spatial, désormais dans l'Apple TV et Mac M1. J'ai commencé à essayer de comprendre, mais peut-être que mes tympans sont complètement brisés. J'arrive pas à bien entendre l'audio spatial présentement. Est-ce que tu as essayé, toi, Audrey?
Non, j'ai pas d'AirPods, donc ah, j'ai ouais, pas essayé. C'est vrai. Mais j'y pense. Je suis un peu lente, tu sais.
Ça va arriver, c'est sûr que tu vas finir par y arriver. Alors, ça fait le tour un peu pour tout ce qui est iOS qu'on voulait vous parler. iOS, hein, on va le rappeler, c'est pour tout ce qui est les iPhones. Typiquement, c'est les nouveautés pour les iPhones qui vont arriver en septembre. On switch sur iPadOS, Audrey?
Allons-y. Alors, bien sûr, dans iPadOS, il y a quasiment toutes les nouveautés dont on vient de vous parler. On va pas tout redire. Donc là, j'ai noté vraiment les fonctionnalités spécifiques à l'iPad. Enfin, on va avoir des widgets où on veut, comme sur l'iPhone. Et non plus sur la petite colonne de gauche aujourd'hui, là. On va pouvoir utiliser les widgets comme on veut. La bibliothèque d'apps arrive sur l'iPad. Donc ça aussi, c'est cool. Moi, je m'y suis vraiment bien faite. J'ai du mal maintenant sur l'iPad à avoir plein de pages à défiler pour trouver mon application. La bibliothèque d'apps, elle est vraiment super pratique.
Ouais.
On va avoir un... Alors, je ne sais pas si ça va être plus simple, mais ils ont revu le multitâche.
OK.
Parce que le multitâche sur l'iPad, c'est quand même la galère entre split view, slide over, enfin toutes les fonctionnalités pour gérer plusieurs fenêtres. Donc franchement, je m'avance pas, hein. On va tester puis on vous dira ce qu'on en pense.
Combien de fois j'ouvre un onglet que ça devient une fenêtre à droite dans mon Safari ou que j'ouvre une application qui glisse à droite puis là je veux la tasser mais qu'il faut que je prenne la petite barre en haut pour la tasser à droite ou pour oh, quelle galère sur ce iPad. Là, ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais, donc là, la démo était très bien faite, mais même le gars qui la faisait, il avait pas l'air trop à l'aise, je trouvais. Je me suis dit, ouais, il a pas dû répéter lui, hein, parce qu'il a l'air un peu frileux à se dire si je fais pas le bon geste, ça va pas marcher. Parce que moi, j'ai fait des tutos là-dessus, sur slide over, split view, et franchement, des fois, je m'arrachais les cheveux parce que c'est tellement sensible. Les gestes sont tellement, il faut qu'ils soient tellement précis, c'est limite de la chirurgie, tu vois.
Ouais.
Donc là, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un truc plus simple, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un truc, par contre, qu'on n'a toujours pas, c'est le support des écrans externes amélioré. Parce qu'on peut toujours brancher un écran, un iPad sur un écran, mais c'est toujours de la recopie vidéo. Et ça, franchement, c'est la loose quand même.
C'est un élément que j'attendais avec iPadOS, c'est-à-dire que tous ceux qui achètent présentement des iPad Pro très chers avec le processeur M1, waouh, super cool, on peut le brancher, il y a un port USB-C, c'est cool, oui, Mais dans le fond, c'est juste une recopie de l'écran. Ça aurait été bien que ça soit un deuxième écran, que l'écran qui soit
en pleine largeur. En mode étendu,
ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça un petit peu gênant, honteux de la part d'Apple. Ils étaient rendus là, ils ne l'ont pas fait. Je vois pas encore essentiellement, je l'ai dit sur Twitter, mais je vois pas encore l'intérêt d'acheter le iPad M1. Il n'y a pas de nouveautés distinctives qui ont été amenées avec iPadOS 15. Peut-être que si vous n'avez pas du tout d'iPad, je vous recommanderais même pas le M1. Si vous en avez un iPad Pro, je vous recommanderais pas encore le M1. Il n'y a pas ces éléments-là. Je trouve ça un petit peu... C'est un peu gênant. Ouais, c'est un peu gênant.
Ouais. Oui, et puis tu vois, moi j'ai un iPad Pro fin 2018. Écoute, il marche toujours super bien. Là, je réfléchissais, je me disais, parce que j'ai une cliente qui voudrait changer, donc elle m'a demandé si je vendais le mien. J'y ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit, mais non, quoi. Je me suis dit, franchement, pour ce que je fais avec mon iPad, il a beau avoir 2 ans et demi, il est toujours au top, quoi. Donc, on va essayer de penser à l'écologie et puis ne foncez pas forcément en vous disant je vais faire des trucs géniaux avec un iPad Pro M1. Franchement, je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup plus de choses. Et puis comme là, en effet, le support des écrans externes, c'est quand même toujours incroyable qu'on n'ait pas mieux que ça, quoi. C'est fou.
C'est gênant de la part d'Apple. D'ailleurs, tu m'amènes sur une piste qui est intéressante. On l'a pas dit pour iOS, puis on va le dire tout. Ben, en tout cas, je vais le dire tout de suite, c'est que si vous avez présentement iOS 14. Vous allez pouvoir avoir iOS 15. Si vous avez présentement iPadOS 14, vous allez pouvoir avoir iPad 15. Bref, on laisse personne en arrière et ça, je trouve ça cool.
Ouais, c'est vrai que cette année, ils nous ont gâtés parce que je crois qu'on peut remonter à des appareils qui ont 7 ans.
Ouais.
Donc, c'est vraiment génial. Enfin, ça, nous, toi et moi, je suis sûr qu'on valide à 100%. On change pas d'appareil et on peut, en plus, on peut choisir maintenant. Je sais pas si je l'ai noté quelque part, mais on peut choisir maintenant de ne faire que les mises à jour de sécurité.
Ouais.
Même si on met pas à jour son système. Et ça, je trouve que c'est génial pour les gens qui ne veulent pas changer ou qui, justement, ont des appareils un peu vieillots. Ils vont quand même pouvoir profiter des mises à jour de sécurité, si j'ai bien compris tout ce qui a été dit. Et je trouve ça bien de séparer les deux, le système et les mises à jour de sécurité.
Autrement dit, si vous avez iPadOS ou iOS 14 présentement, vous allez pouvoir soit switcher au 15, faire l'update, ou soit rester sur votre 14, mais avoir les mises à jour de sécurité, ce qui fait que, ben, dans les faits, je trouve ça cool. Est-ce que c'est un début de scission des mises à jour versus la sécurité? C'est intéressant de voir. Je serais curieux de voir dans les prochaines années ce qui va arriver.
Ouais.
Un élément cool avec iPadOS 15, quand vous avez des applications qui sont seulement sur iPhone, mais que vous avez sur votre iOS, votre iPad, vous avez le bouton pour le grossir 2 fois. Mais vous pouvez pas le mettre en mode horizontal. Là, avec iPadOS 15, vous allez pouvoir le faire. Alors, des applications qui s'adaptent pas, style Instagram, qui n'existe pas encore sur un iPad, vous allez pouvoir la mettre en mode horizontal au moins. C'est quelque chose d'intéressant qui va arriver.
Ouais, ça, c'est bien. Et les développeurs d'Instagram, on attend. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des incompréhensions comme ça.
Ouais. Incroyable. Une nouveauté que j'attendais, il y a plein de fonctionnalités dont on va parler qui vont être sur iOS, mais il y en a certaines qui vont être réservées sur iPadOS. C'est l'application qu'on utilise présentement, Audrey puis moi, l'application Notes. Plein de belles nouveautés dans Notes, hein, Audrey?
Oui, et de mémoire, elles vont pouvoir aussi être sur iOS 15. Hein. C'est pas forcément spécifique à l'iPad.
Les Quick Notes ne seront pas les notes rapides, ce que j'ai compris.
Oui, c'est vrai. Ah d'accord, ouais, tu parlais des Quick Notes. Oui, parce qu'en fait, dans l'application Notes, que ce soit Mac, iPhone ou iPad, on va avoir on peut mettre maintenant des mentions dans les notes qu'on partage. Mm-hmm. Par exemple, Mathieu et moi, on partage une note. Si je veux le mentionner ou si on veut ajouter une autre personne et qu'on veut la mentionner directement, on va pouvoir taper son nom et la personne saura qu'elle est mentionnée dans cette note. Donc ça c'est bien. Hein. La vue améliorée aussi des modifications, parce que parfois moi j'ai une notification comme quoi tu as modifié une note, mais je vois pas forcément ce que t'as changé. C'est parfois surligné, mais ça disparaît très vite. Enfin là ils ont vraiment amélioré ça, donc c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
On va avoir la gestion des mots clés. Oui. Et ça, ben, pour un gestionnaire de notes, c'était quand même la base aussi, mais on l'a attendu longtemps. Oui, tu m'as dit QuickNotes. Alors oui, QuickNotes, ça va être une fonctionnalité qui, je crois, qui est sur Mac aussi et sur iPad, où on va avoir la possibilité de créer une note rapide depuis le, c'est le coin inférieur droit de l'écran.
Ouais, un genre de petit avec... post-it que vous allez pouvoir
c'est
faire.
C'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu qu'ils en ont pas mal parlé. Ça m'a, je sais pas si moi j'y verrai un intérêt. Pouvoir créer des notes comme ça depuis n'importe où. Faut voir à l'usage quoi, ce que ça va donner. C'est quelque chose qui t'a plu, toi?
Mon problème dans toutes ces façons de prendre des notes là, c'est de se retrouver après. Alors quand j'ai vu qu'on pouvait avoir des hashtags, là, les mots clics, des mots clés pour pouvoir se retrouver. Quand j'ai vu aussi qu'il allait avoir les dossiers intelligents, ben je me suis dit ok, là peut-être que je vais utiliser les Quick Notes, mais s'il n'y avait pas eu ces fonctionnalités là, je t'avouerais que j'aurais pas eu sauté le pas pour les Quick Notes.
Ouais, l'application Traduire qu'on a sur l'iPhone ouais. arrive sur l'iPad, je crois qu'elle y est pas, et on va pouvoir traduire à la voix, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors ça peut paraître du détail, mais ça veut dire que quand même les nouvelles applications qu'ils ont mis en place ces dernières années continuent d'évoluer, donc c'est toujours bien. Même si l'application Traduire, du coup, elle est sortie un peu en période Covid, donc on n'a pas pu trop la tester dans les pays étrangers.
Non, mais les conférences, exemple, tu écoutes quelque chose en anglais, tu mets l'application, elle traduit en temps réel ce qui est dit.
Ouais.
Ça, c'est chouette, c'est chouette.
La traduction aussi, elle est disponible, elle est intégrée partout maintenant dans iPadOS. Ouais. Donc, on va pouvoir tapoter sur une phrase et choisir de traduire. Et alors, Swift Playground. Tiens, maintenant que t'es presque un développeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Swift Playground?
Swift Playground, c'est une application pour apprendre à développer. Si vous avez un enfant qui a un certain intérêt sur la programmation ou qui vous a déjà dit, peut-être moi un jour je voudrais être développeur, ben installez Swift Playground sur votre iPad ou même sur Mac, ça fonctionne, et vous allez pouvoir évoluer avec lui et apprendre certains concepts. Vous allez pouvoir apprendre des concepts de variables, vous allez pouvoir y apprendre des concepts de boucle, une boucle, bouclée dans certains éléments, des concepts de fonctions, vous allez pouvoir apprendre tous les concepts de base du code, où moi, quand j'ai appris, quand j'ai fait mes formations en développement, on appelait ça du pseudo-code, ben là, c'est une espèce de transfert en mode jeu, où là, vous avez des personnages que vous allez pouvoir faire bouger en fonction du code à côté, et l'enfant, c'est assez ludique. Bon, mais maintenant, Playground, vous allez pouvoir faire de la vraie programmation, faire des vraies applications à partir d'iPadOS directement, des applications iOS ou iPad à partir de votre iPad, chose qu'on ne pouvait pas. On pouvait juste utiliser Playground pour apprendre, mais on pouvait pas créer d'application avec ça. Alors ça, c'est bienvenu. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi dans l'écosystème iOS. Est-ce qu'on va se retrouver encore avec plus d'applications? Est-ce que ça va simplifier la programmation pour certains? Je t'avouerai que j'ai pas foré. Je suis dans mes cours vraiment core avec un Mac en ce moment traditionnel. Puis je veux pas l'essayer sur iPad parce que je veux pas installer la bêta. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais si c'est comme l'ouverture de l'iPad se fait mais doucement. Hein. Apple garde certains éléments encore très bien verrouillés.
Il faut avoir des nouveautés pour l'an prochain.
Voilà, c'est ça. Alors c'est ça un peu Swift Playground, c'est pour apprendre à développer. Et puis là, ben, ça a l'air qu'on va pouvoir développer directement sur iPad.
Ouais, puisqu'avant il fallait un Mac absolument.
Mais je vais le noter, hein, si vous êtes développeur, ça vous prend plusieurs écrans. La recopie de l'iPad n'est pas suffisante. C'est gênant, c'est même honteux de dire, vous allez pouvoir développer avec un petit écran que vous allez pouvoir grossir sur un écran géant. Moi, pour développer, ça me prend 2-3 écrans des fois.
Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment un problème, je trouve, pour tous les gens qui veulent travailler sur l'iPad. Ce problème d'écran, là, je trouve... Parce que on va pas se leurrer, travailler... Moi, j'ai un écran 27 pouces. Je crois que toi, t'en as deux.
32, 27 ouais.
pouces.
2, 32.
voilà, moi, travailler aujourd'hui sur un écran d'iPad ou même sur un écran de MacBook, pour moi, c'est pas possible. J'ai besoin d'espace, on a besoin d'avoir des fenêtres côte à côte, voir plusieurs choses en même temps. Enfin, ça me paraît indispensable. Et là, de me dire, je branche mon iPad sur mon écran 27 pouces et j'ai juste une recopie d'écran... Ben, à part pour quelqu'un qui fait du dessin et qui pourrait avoir besoin de voir mieux ce qu'il est en train de dessiner. Je sais pas, c'est...
Il y a des applications qui en bénéficient. Là, on est critique, mais il y a quand même des applications qui en bénéficient, comme Keynote ou des applications de présentation qui bénéficient des deux écrans. Mais c'est un petit peu, c'est rien par rapport à ce qu'il pourrait faire. Puis d'autant plus qu'on sait que maintenant, c'est plus une limitation matérielle. Il a le même matériel qu'un Mac ou qu'un MacBook Pro. Je comprends pas qu'on puisse pas reproduire. Mais bon... Je veux pas. Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'on, c'est une fonction qui devrait être intégrée. Quelqu'un m'avait dit, parce que peut-être qu'on en avait déjà parlé, qu'il y a une appli pour iPad qui permet de gérer des fenêtres en multi-écran. Comment ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle Shift Screen. J'ai pas encore essayé. Mais apparemment, c'est une application qui permet d'améliorer un peu ça, mais on reste toujours, enfin, c'est pas quelque chose qui est mis en place, on sent que c'est pas natif, quoi. Tu vois, il y a quand même des choses qui sont limitées. Et puis, bon, son de bois, on est en 2021, il y a un moment, Apple, qu'est-ce que vous faites, quoi? On est au 30e épisode et on râle toujours après ce problème. D'ailleurs, oui, on est au 30e épisode aujourd'hui.
Ouais, effectivement. Mais tu vois, on avait râlé sur le clavier papillon. Ils nous ont écouté, visiblement, ils l'ont arrêté. Alors, ouais. Bah, peut-être qu'on va avoir des nouveautés l'année prochaine grâce à Apple différemment. Ça faisait le tour d'iPadOS. Je pense qu'on va accélérer pour aller sur macOS Monterey cette année, le nom qui a changé.
Ouais. Alors, macOS Monterey, comme ils disent. Avec le bel accent. Alors bien sûr, macOS, le nouveau macOS qui sortira à l'automne intègre toutes les nouveautés de FaceTime, de messages, SharePlay, Share with You, Focus et QuickNote. Donc tout ce qu'on a, pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tout ce qu'on a décrit au niveau vraiment du partage familial, du partage avec les amis et tout ça, ça sera intégré sur Mac. Donc c'est bien, le Mac n'est pas laissé de côté.
Pas du tout, ouais.
Et il y a surtout une nouveauté de dingue.
Oui. Oui.
Qui m'a laissé, mais je suis restée con devant cette image. Je me suis dit, mais quoi? C'est quoi? Mais le contrôle universel. Alors ça.
Hallucinant, cette présentation-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de journalistes qui ont parlé à Craig Federighi après, pour leur demander comment vous avez fait, comment, il en a parlé souvent. Je te laisse la décrire parce que c'était magique, cette présentation-là.
Alors imaginez que vous avez votre Mac devant vous, votre iPad à côté, et bien vous allez pouvoir, grâce à la magie du contrôle universel, vous allez pouvoir faire passer votre curseur de souris de l'écran de votre Mac à l'écran de votre iPad. Mais vraiment comme si vous étiez sur le même appareil, comme si vous aviez deux écrans connectés à votre Mac, vous allez passer d'un appareil à l'autre. Du coup, vous allez pouvoir faire glisser une image d'un appareil à un autre, vous allez pouvoir faire déplacer des éléments. Enfin, ça va. Moi, j'imagine au quotidien
sans
le
AirDrop,
temps que je vais gagner
sans AirDrop.
Ouais, c'est ça. J'allais y venir parce que par exemple, moi, je conçois une formation sur, comme j'ai fait là pour Sidecar par exemple. Du coup, j'ai passé mon temps à faire des captures d'écran sur l'iPad que j'envoyais en AirDrop sur mon Mac. Et franchement, j'avais l'impression de faire du AirDrop toute la journée. Et là, je vais pouvoir prendre mon image, la faire glisser sur l'écran de mon Mac, ou même directement sur ma plateforme de formation, et ça va être direct. Et ça, mais franchement, j'aurais pas pu imaginer qu'ils allaient nous faire ça. Clairement, je me suis dit, ils vont améliorer AirDrop, ils vont nous faciliter l'échange de fichiers entre les appareils, mais là, de pouvoir glisser d'un appareil à l'autre, comme si c'était le même... J'ai fait waouh, j'étais scotché, quoi.
Et moi, ce qui m'a scotché encore plus, c'est qu'on voyait une présentation. Alors, on avait un iPad. Après ça, à la gauche, on avait un MacBook. Puis après ça, à la gauche encore du MacBook, on avait un iMac. Alors, les trois se parlaient, ils glissaient sa souris des trois appareils l'un aux autres. Et puis là, il y a mon esprit complexe qui a commencé à embarquer, qui a fait, mais comment ils ont fait? Techniquement, comment ils ont fait? C'est sûr qu'il va falloir programmer de la configuration pour dire que le Mac est à la gauche de l'iPad, le iMac est à la gauche du Mac. Il va falloir configurer, dire que, tu sais, on le fait avec nos écrans un peu, hein, on dit l'écran, la disposition de l'écran est à gauche, est à droite, et ainsi de suite.
Mais si tu est-ce que tu utilises Sidecar? Est-ce que tu l'as déjà utilisé?
Ça
permet d'utiliser ton iPad comme un écran secondaire pour ton Mac.
Ah oui, je l'utilise. Oui, je l'utilise déjà.
D'ailleurs, mais tu vois, c'est un peu la même idée, sauf que du coup, on n'est plus sur iPadOS, on est dans Sidecar, donc on peut quand même retourner sur iPadOS utiliser des applis, mais Tu vois, quand j'ai, moi, là, c'est la dernière formation que j'ai proposée sur ma plateforme. Et je me suis dit, en la faisant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour faire des choses aussi simples. Et donc, forcément, c'est au moment où il y a eu la keynote et où ils ont présenté ça. Et donc, je me suis dit, je vais mettre toute ma formation à la poubelle. Mais en fait, non, parce que Sidecar sera toujours présent dans le prochain macOS. Donc, ça va. On pourra toujours utiliser l'iPad comme un écran secondaire et utiliser les fonctions tactiles et tout. C'est ça qui est intéressant dans Sidecar. Mais là, clairement, est-ce qu'ils ont expliqué, du coup, comment techniquement ils ont fait?
Ben, en fait, grâce à la puce Bluetooth qui détecte la proximité des appareils, bon, ils savent qu'il y a un appareil à côté. Ce que disait Craig Federighi, c'est qu'ils savent pas s'il est à droite ou à gauche. Mais naturellement, quand vous allez passer votre souris à gauche, il va savoir, lui, il va détecter, il dit, bon, s'il veut l'envoyer à gauche, ça veut dire que son écran est à gauche, fait qu'automatiquement, il va le configurer en le mettant à gauche. C'est aussi stupide que ça. Dans la présentation, vous allez voir, la première fois que vous le faites, il affiche une espèce de barre qui dit, bon, ben là, tu vas switcher d'écran, puis après ça, ça se fait naturellement. Alors, c'est à la première configuration que ça va le faire et que ça va dire, bon, c'est à droite, c'est à gauche. Et c'est toi, sans le savoir, qui va le dire avec ton geste que tu veux aller à gauche, le copier-coller. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les faits. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Est-ce qu'il va y avoir des bugs à cause de ça? Mais c'est vraiment ce que Craig Federighi disait. C'est vous-même qui le configurez sans vous en rendre compte. Et c'est là toute la force d'Apple. C'est-à-dire de nous faire des fonctionnalités qui sont tellement bien intégrées que tu fais comme, ah ben oui, c'est évident, c'était ça qu'il fallait faire.
Non, c'est vraiment pour moi, ça a été une des plus grosses surprises de cette présentation. Je pensais pas qu'il y aurait une intégration aussi fluide entre le Mac et l'iPad. C'est ouais, et on peut utiliser jusqu'à 3 appareils en même temps avec cette même vous pouvez avoir votre iMac, votre MacBook et puis votre iPad et tout sera vous passerez d'un appareil à l'autre de façon fluide quoi. Donc j'ai vraiment super hâte de tester ça.
Ouais, ça moi aussi j'ai vraiment hâte de tester ça. Dans les nouveautés de macOS, en plus de tout ce qu'on vous a dit, il y a pas mal de choses qui reviennent. Raccourci, shortcut arrive sur Mac. Alors, adieu, Automator?
Non, apparemment, il sera toujours là. Mais on va pouvoir envoyer des automatisations qu'on a créées avec Automator, on va pouvoir les envoyer dans Raccourci.
Voilà.
Ouais.
Nouveauté aussi Automator. Au niveau de Safari. Safari, j'ai mis le lien dans les notes de l'émission. Vous allez pouvoir déjà le tester sans installer Monterey. Vous pouvez installer Safari Technology Preview qui va installer sur votre Mac Big Sur le Safari côte à côte, le dernier Safari côte à côte avec le Safari actuel. Et vous allez pouvoir tester les nouveautés. Alors, regroupement, les onglets, c'est un petit peu, c'est fait différemment. Moi, je le teste en ce moment et je suis pas encore convaincu. Regroupement d'onglets... Ouais. Chaque onglet.
On pouvait déjà le faire en fait.
Ouais, c'est ça.
On pouvait créer un dossier avec par exemple 5 sites favoris et on pouvait via un clic droit faire ouvrir tous les sites de cet onglet. En fait, on pouvait déjà faire ce système de regroupement d'onglets, mais là ils l'ont modernisé, on va dire. Donc on verra. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de Safari. Hein. Safari, c'est vraiment un élément super important.
Hein. Ça fait 2 keynotes, hein, où ils parlent beaucoup de Safari. La première, c'était pour les éléments de sécurité qui étaient amenés. Là, c'est pour des éléments d'intégration et les extensions qui arrivent sur iPhone et iPad. Ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se faire parce qu'il y a des extensions que j'utilise couramment sur mon Mac que j'avais envie d'avoir sur mon iPad et mon iPhone. Et là, je suis vraiment content que ça arrive. Et puis là, t'es bien contente parce qu'on va pouvoir partager des groupes d'onglets par mail, toi.
Ouais, ça va être vachement bien. Par exemple, si t'es en train de visiter plusieurs sites web, tu fais une recherche sur un sujet et tu peux faire partager et ça va te créer un mail avec tous les liens vers ces sites web directement. C'était assez incroyable. Enfin, je sais pas si tu te souviens de l'image, mais en gros, tu fais partager, par exemple, les onglets à Mathieu. Hop, ça te crée un mail avec tous les liens. Belle présentation et tout. Voilà, c'est fait en 2 secondes. Et ben, je trouve ça bien quand on fait des recherches sur un sujet précis et qu'on veut montrer plusieurs sites à quelqu'un, ça va être bien.
Effectivement. Un gros élément qui revient à chaque année, c'est tous les aspects de vie privée, sécurité. Il y en a beaucoup, beaucoup d'éléments. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les éléments de vie privée et sécurité, Audrey?
Ben, tout ce qui est lié à iCloud+.
Ouais.
Donc ça m'a tapé dans l'œil un peu. Bien sûr, il y aura des nouvelles, des nouveautés pour par rapport à Mail, Safari, les rapports de vie privée, protection de la vie privée. Enfin, en gros, tout ça, c'est ce que les gens vont pas voir au premier coup d'œil, mais qui va faire en sorte que leur vie privée, leur navigation, tout soit beaucoup plus respecté. Donc les gens qui vont, c'était comme les pixels, comment ça s'appelle les pixels invisibles là, dans les mails. Par exemple, moi, clairement, je fais une newsletter toutes les semaines. Grâce à un pixel invisible, alors je le savais même pas, hein, je l'ai appris récemment. Grâce à un pixel invisible, je peux avoir l'info, par exemple, si vous avez ou pas ouvert le mail. Ce qui va me permettre de me dire, ben, si j'envoie 2000 mails, il y a 80% des gens qui l'ouvrent, donc ça veut dire qu'ils sont intéressés par ce que je fais. C'est une notion qui est quand même importante pour des créateurs de contenu. Là, Apple veut bloquer ce genre de choses, donc après, bon bah, on s'adaptera. Hein, de toute façon, c'est pas un souci. On peut également savoir quand vous cliquez sur un lien dans un mail qu'on vous a envoyé, si vous avez cliqué le lien, si ça a déclenché un achat. Enfin voilà, il y a quand même un suivi, un traçage qui est fait quand vous recevez une newsletter et que vous cliquez sur des liens. Donc tout ça, Apple veut mettre fin à tout ça et puis veut protéger votre navigation. Par contre, iCloud Plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as... Est-ce que c'est ça aussi que t'as aimé, toi?
Oui. Alors, dans iCloud Plus, ce qu'ils ont parlé, c'est, ben, évidemment, ça devient une espèce de VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est le moyen de naviguer tout en étant masqué. Masqué de qui? Ben, de votre fournisseur Internet. Masqué de qui? De la personne qui vous donne de l'Internet sans fil, exemple, dans un café ou ainsi de suite. Vous allez pouvoir avoir un VPN qui va vous sécuriser. Ça va, évidemment, aider à maximiser la sécurité. Moi, ce que j'ai retenu dans iCloud Plus, c'est un élément qui est vraiment con, mais qui est vraiment énorme, que j'attendais depuis bien longtemps, c'est de pouvoir avoir son propre nom de domaine comme adresse de email dans iCloud. C'est-à-dire que moi, j'ai profduweb.com, ce nom de domaine-là m'appartient. Toi, tu as audreycoulot.com, formationapple.com. Ben ça, tu vas pouvoir avoir directement dans ton iCloud, configurer ce nom de domaine-là pour recevoir tes courriels personnalisés. Ce qui fait que maintenant, vous allez pouvoir vous acheter un nom de domaine à vous. Exemple tartampion.com et vous allez pouvoir le configurer dans iCloud Plus et recevoir des courriels personnalisés sans dire que vous utilisez iCloud, sans dire que vous utilisez gmail.com. Ça va être beaucoup plus professionnel et je trouve ça vraiment chouette. J'avais vraiment hâte de l'avoir parce que moi j'utilise et je paye des services pour pouvoir avoir ça chez moi. Et ça, je suis vraiment content de l'avoir. C'est une autre couche de sécurité, de professionnalisme par rapport à tout ça. Vraiment cool. Ces éléments-là. On va pouvoir aussi masquer avec iCloud Plus, masquer ses adresses de email pour les enregistrements. Alors, ce qui fait que toute la couche email, protection de votre vraie adresse, protection de quand vous lisez, de vos habitudes par rapport aux mails, ça va être protégé avec iCloud Plus. Et puis, ben, juste pour vous le dire, c'est pas plus cher. Si vous êtes un utilisateur payant d'iCloud, vous allez bénéficier de ces fonctionnalités-là gratuitement. Ben, en plus de ce que vous avez.
Ouais. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir ajouter une personne de confiance pour débloquer notre compte iCloud si on l'a bloqué. Donc ça, franchement, ça va être bien. Aussi, on peut définir une personne de confiance en cas de décès. Ça aussi, c'est hyper important parce qu'en effet, quand une personne décède, si elle a pas laissé le code de son iPhone, son mot de passe Apple, en gros, tout est bloqué. Et jusqu'à présent, enfin, ou du moins jusqu'à ce que Apple mette ça en place, il y a aucun recours possible pour récupérer des achats. Il y a rien qui existe pour l'instant. Il n'y a pas de gestion. Alors, du décès par rapport au numérique.
Est-ce que c'est pour aller chercher l'information, exemple les mails et ces choses-là, ou c'est vraiment pour en plus récupérer ses achats? Ce qui voudrait dire que je pourrais léguer à une personne tous mes achats dans chez Apple. Est-ce que ça veut dire ça d'après toi, Audrey?
Pour moi, quand ils disent ajouter une personne de confiance en cas de décès, ça veut dire en effet que cette personne elle ait accès au compte du défunt. Et logiquement, ils ont forcément pensé à l'héritage numérique entre guillemets qu'une personne laisse quand elle part, quoi. Je pense que on n'a pas, ils n'ont pas détaillé énormément la fonction, non. Donc on verra. On en reparlera parce que c'est quelque chose qui est important. Je ne sais plus quel acteur avait un peu crié au scandale en disant il avait acheté des milliers de dollars de musique chez Apple et puis il voulait que ses enfants puissent en profiter quand il serait plus là. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est pas possible. Donc
c'est ça. Si un juriste ou si une personne connaît ce détail-là, je serais vraiment curieux de le savoir parce que ça amène une notion de c'est dématérialisé mais maintenant légable, hein. Tu peux le léguer à quelqu'un ou le transférer. Je serais vraiment vraiment super intéressé de savoir ça.
Peut-être que c'est déjà existant dans le partage familial, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas des questions qu'on se pose au quotidien, mais quand ça arrive, on se dit, il faut absolument en parler à la personne, si on peut, bien sûr, avant qu'elle décède, pour avoir ses codes et tout ça, parce que sinon, tous les abonnements, c'est compliqué de résilier. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on pense pas, mais qu'il faut faire dans ces cas-là, quoi. Donc, il y a aussi le... On va enfin pouvoir avoir une sauvegarde iCloud gratuite quand on transfère des données entre deux appareils. Donc ça, c'est vraiment bien.
Parce 15 que j'ai, jours, 30 jours, une quinzaine de jours, je pense, hein, avoir lu.
Je sais plus le délai, mais en tout cas, si vous voulez, pour expliquer, c'est que quand vous transférez vos données d'un iPhone à un nouvel iPhone, par exemple, vous changez de téléphone, vous avez ce qu'on appelle le démarrage rapide et vous pouvez soit transférer les données d'un appareil à l'autre directement, mais ça peut être super long, hein, ça dépend de la qualité du réseau Wi-Fi, enfin bref, c'est quand même assez long. Et sinon, vous pouvez dire, bah, je récupère ma sauvegarde iCloud, et là, en général, ça va quand même plus vite. Donc en fait, si vous n'avez pas de forfait iCloud, vous pouvez pas sauvegarder, et du coup, vous devez prendre la méthode, on va dire, de transfert direct, et c'est beaucoup plus long, quoi. Donc là, c'est cool qu'ils proposent une sauvegarde lors du transfert des données.
Ouais, clairement.
Sauvegarde gratuite.
C'est une, et c'est pour un délai prescrit, le temps de faire votre transfert, mais c'est quand même salutaire parce que avec le 5G gratuit, on s'en sortait pas, là, quand on switchait d'un appareil à un autre maintenant.
Ah, bah oui, les 5 gigaoctets gratuits, par contre, eux, ils ont pas bougé non plus.
Non.
On est toujours sur si peu de gigaoctets gratuits. Bon, en même temps, je pense que si tous les clients d'Apple mettent $3 par mois, dans un forfait, ça fait quand même une bonne petite cagnotte, hein, qui tombe tous les mois. Donc, c'est pas négligeable, je pense, pour les sociétés qui font ça ou pour les sociétés qui font des abonnements, quoi.
Non, effectivement. Bon, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de cloud dans ce que fait Apple, mais d'après toi, son cloud, Audrey, est-ce qu'il est totalement Apple ou parce que je travaille dans le domaine et je connais la réponse, alors je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que tout ce que tu mets dans le nuage d'Apple reste chez Apple ou des fois ça s'en va ailleurs?
À mon avis, ils peuvent pas tout stocker chez eux. Est-ce que c'est un lien avec le carbone neutre?
Non, ça n'a pas nécessairement, nécessairement un lien avec.
Parce que je sais qu'ils compensent. Ils compensent l'énergie utilisée par d'autres serveurs. Leur équilibre est quand même neutre au niveau carbone, mais je pense pas qu'ils peuvent tout héberger.
Alors, ils hébergent une grosse quantité chez Google Cloud de leurs données Apple. Alors, quand vous faites affaire avec Apple, vous par ce fait-là, vous êtes chez Google. Ce que je veux juste préciser, c'est que Google n'a pas vos données. Google a des éléments chiffrés qu'il y a juste Apple qui peut voir ou lire ou que les applications Apple peuvent lire. Et juste pour la blague, ils utilisent 8 exaoctets de données chez Google. Ça, c'est 8000000000 gigs de données chez Google qui sont utilisées. C'est beaucoup de zéros.
Ouais. Et il faudrait qu'on reste tous dans le forfait de 200 gigas, ça serait bien, mais... Non, c'est compliqué. Ouais.
Effectivement. Au niveau santé, des éléments intéressants par rapport à l'Apple Watch et la santé en général. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on allait enfin facilement pouvoir partager ces données à ses médecins de manière sécuritaire, donner un accès à ces données de santé à son médecin. Le health sharing, là, de pouvoir partager ses données de santé aussi avec sa famille. T'as marqué « aïe, aïe, aïe ». Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah ouais, c'est le genre de truc, je suis un peu frileuse, moi, là-dessus. Autant je sais que les données de l'application santé et de mon Apple Watch restent localement sur les appareils. Mais si tu veux, est-ce que partager son rythme cardiaque, des choses comme ça, avec sa famille, est-ce que, enfin, sauf si on surveille un de nos parents malades. Mais t'imagines la panique, maman, t'as fait une hyper, ton ECG d'aujourd'hui, il est pas bon, je l'ai envoyé à distance. Enfin, on va rentrer dans un truc qui, ça m'effraie en fait, ça m'effraie. Et puis, j'ai toujours peur des, peut-être que j'ai regardé trop Black Mirror, mais j'ai toujours peur
Des dérives.
des dérives. Voilà que, par exemple, un jour, des mutuelles puissent accéder à nos données de l'Apple Watch et puis du coup nous dire, ben vous marchez pas assez de pas par jour, donc votre cotisation augmente. Enfin, tu vois, j'ai un peu peur de ce genre de truc. Et là, quand j'ai vu la keynote, je me suis dit, mais waouh, est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que nos données de santé ne doivent pas rester? Alors, entre nous et notre médecin, ok. Après, la famille, ouais. J'ai pas envie de recevoir des alertes quand ma mère fait ou quand, enfin, quand un de mes parents a une pulsation cardiaque trop élevée, tu vois. C'est là quand je vois l'image, tu vois, que j'ai mis sous le papa une alerte, San une alerte, waouh, je trouve ça hyper angoissant, quoi.
Ouais, c'est et d'ailleurs, j'ai appris il y a pas très longtemps pourquoi la raison du secret médical. Tu la connais, la raison du secret médical? Tu vois,
Non, dis-moi.
elle est très, très simple. La raison du secret médical, c'est que votre médecin n'a pas le droit de révéler des informations de votre santé pour la simple et bonne raison que c'est seulement avec lui que vous allez pouvoir partager l'information. Ça paraît tout con, mais grâce à ce mécanisme-là, vous allez pas cacher de l'information à votre médecin. Vous allez partager de l'information à cœur ouvert sur ce qui va mal, parce que c'est que lui qui va le garder pour lui et que c'est lui qui va vous conseiller. Alors effectivement, là, on brise un peu ce secret-là avec le partage familial de la santé. Sous une vertu, je fais attention à toi, sous une vertu, et je te rejoins totalement sur cette crainte-là, que ben là, aujourd'hui, ton ECG, maman, c'était pas bon. Et
Ouais, et
là,
puis
on infantilise beaucoup les gens, je trouve.
Ouais, c'est ça, en fait, et puis dire ah bah tu t'es couché à 2 heures du matin, c'est pas
Voilà.
sérieux.
Voilà.
Tu vois, en fait, on est déjà un peu trop fliqué, clairement, sur tout ce qu'on fait sur Internet. Il suffit d'avoir des voisins un peu trop curieux qui vont regarder à quelle heure on rentre. Tu te sens aussi oppressé. Enfin, il y a un moment, moi, ce genre de truc, tu vois, l'Apple Watch, j'ai mis très longtemps à me dire, je vais avoir une Apple Watch aussi pour ça. Après, aujourd'hui, moi, ça me rassure beaucoup. Quand je vois mon rythme cardiaque au repos, je suis contente, ça s'améliore. Enfin, voilà. Je vois tout le bénéfice que l'Apple Watch m'apporte, mais par contre, je veux que ça reste entre moi et moi, ou entre moi et mon médecin. Mais là, je trouve qu'avec la famille, tu vois, là, moi, j'ai quelqu'un de malade dans ma famille. Si ça va pas, son médecin m'appelle. Il y a encore le téléphone, il y a encore des moyens d'être prévenu. Après, peut-être que tout ça, c'est l'avenir et qu'on est des vieux cons et qu'on veut pas évoluer. J'en sais rien. J'aimerais bien justement que nos auditeurs nous disent ce qu'ils en pensent par rapport à cet aspect-là sur la santé, mais ça reste quelque chose de privé, la santé, quoi. De privé, personnel, quoi. Comme tu dis, on ose parler à notre médecin de tout ce qui va pas parce qu'on sait qu'il y a le secret médical.
C'est
Au-delà, ouais.
je te rejoins totalement là-dessus. Il commence à avoir certains enjeux qui m'inquiètent, qui peuvent amener à certaines dérives. Bon, Apple, fais attention à ces éléments-là. On peut les croire, mais jusqu'où on les croit, hein, c'est ça. C'est un peu, on peut pas faire une confiance aveugle dans ces éléments-là. Mais bon, bref, c'est arrivé. On va switcher pour terminer avec deux écosystèmes qui sont assez présents maintenant. Apple Watch 8, des nouveautés au niveau des faces, de l'image,
Décadrant.
des cadrans, ouais, c'est ça. Des nouvelles applications d'activités que vous allez pouvoir faire, du tai chi, du pilates. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire pour les cadrans? Pas
Franchement,
grand-chose.
pour WatchOS 8, il n'y a pas grand-chose cette année. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, un peu déçu. Un peu déçu.
Mais moi, je trouve que va falloir faire attention parce que là, on peut maintenant avec WatchOS envoyer des messages. Il y a des GIFs animés. Il faut comprendre, en tout cas, moi, à mon niveau, mon Apple Watch, c'est pour des micro-interactions, tu sais, un pouce en l'air, un pouce en bas, voire une notif. Mais là, de composer des messages, même si ça va bien les composer, de chercher un GIF animé qui se prête bien à ce que je veux dire, à exprimer, je trouve ça un peu trop pour cette plateforme-là.
Bah, tu sais, quand on voyait pareil la démo, donc c'était une femme qui touchait son Apple Watch, donc forcément la caméra était très zoomée sur ses doigts et l'Apple Watch, et tu disais mais en fait presque son doigt il est trop gros pour son Apple Watch, et tu sentais que elle appuyait mais un peu comme l'autre avec le multitâche, c'est oh punaise je vais faire une connerie quoi, tu vois, c'était vraiment alors, j'appuie mais oh là là attention faut que j'appuie bien au bon endroit pour la démo et tout, et on sent que voilà quoi, il y a peut-être d'autres choses que Apple aurait pu nous proposer pour WatchOS que des gifs animés qui en plus qu'il faut dicter pour pouvoir faire une recherche. Enfin, tu vois, il y a un moment, il y a des usages qui doivent rester, je pense, sur certains appareils. Alors après, il y a plein de gens qui vont me dire, mais non, Audrey, moi ça va vachement me servir. Tant mieux. Après, annoncer ça comme, ben, je trouve que là, WatchOS 8, clairement, je m'étais, tu vois, pour être tout à fait honnête, je m'étais dit, s'il y a vraiment des grandes nouveautés, je changerais peut-être d'Apple Watch. Mais là, vu ce que ça apporte, je vais pas changer. Il y a aussi des mises à jour qui seront plus légères. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais galéré. Je galère avec mon Apple Watch série 3 pour faire les mises à jour. Donc là, j'attends WatchOS 8, parce que peut-être qu'ils ont réglé le problème et que c'était une méthode temporaire qu'ils nous ont imposé de réinitialiser la montre pour faire les mises à jour. Peut-être que là, avec WatchOS 8, ils nous ont réglé ce problème-là, puisqu'ils vendent toujours l'Apple Watch série 3 sur leur site. Donc, on va voir. Affaire à suivre.
Alors, évidemment, il y a des éléments pour voir la durée de la respiration lorsque vous dormez, pour ceux qui sont peut-être sensibles à l'apnée du sommeil, comme on appelle, de faire attention à ça. Il y a des éléments de mindfulness au niveau de l'application respirer qui a certains petits changements. Les changements au niveau de la santé sont minimes, je vous dirais, au niveau des activités. Je ne sais pas si Fitness Plus est arrivé en Europe, c'est un élément important de l'année passée. Il n'y a pas eu grosse amélioration par rapport à ça. Exposition au son, il n'y a pas grand-chose de nouveau là qui est arrivé sur WatchOS 8. Au niveau de la maison, qui est maintenant une plateforme, on va switcher là-dessus. La maison, c'est quoi? Ben, c'est les HomePod et un peu Apple Télé, mais mélanger ensemble.
Tout ce qui est domotique, ouais.
Ouais, c'est ça. Bon, on va pouvoir maintenant ouvrir des choses à partir de son iPhone ou de l'HomePod sur l'Apple Télé en lui disant, bon ben, démarre telle télésérie à l'écran. Moi, j'ai ces fonctionnalités-là depuis longtemps, que ce soit avec Google ou que ce soit avec Amazon. Et très franchement, là, très, très franchement, là, ça ne fonctionne pas bien. C'est de la grosse cochonnerie. Alors, je veux pas croire qu'Apple ait fait mieux. Oh, à suivre. Sinon, d'autres éléments pour Home que t'as retenu?
Alors, j'ai pas compris quelque chose. Ils nous ont dit que les HomePod Mini pouvaient être appairés avec l'Apple TV 4K, mais c'est déjà le cas. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai pas dû comprendre. En fait, tu vois, c'est écrit appairer les HomePod Mini avec l'Apple TV 4K.
Et moi, ils sont appairés et j'ai la 4K, ben, et oui. Je ne comprends pas.
Ouais, d'accord. Bon, ça me rassure parce que je me suis dit, mais pourquoi ils nous annoncent ça comme une nouveauté alors qu'on peut déjà le faire? Peut-être parce que les HomePod Mini sont sortis entre les deux keynotes et qu'ils ont voulu en reparler. Je sais pas. Peut-être ouais, okay, que, bon point, ouais. Je pense que c'est pour ça, ouais. Sinon, bah, écoute, non, moi, c'est pas le genre de truc qui me passionne pour l'instant. Je suis très contente de mes HomePod Mini. J'ai un petit problème d'écho en ce moment dans les séries, mais je pense que c'est lié aux applications Netflix ou Disney+. Mais sinon, non, là pour Home, oui, ben déverrouiller, ouvrir sa maison avec son iPhone ou son Apple Watch, ben quand on aura des serveurs connectés, on pourra le faire, ouais. Pour l'instant, ça me paraît toujours très futuriste tout ça, mettre des caméras dans son jardin ou à la porte d'entrée.
Ouais, non, ça par contre c'est bien parce que les caméras, si vous avez des caméras, vous faut tout le temps les regarder sur soit l'application dans le téléphone ou soit sur l'iPad. Là, vous allez pouvoir les regarder sur l'Apple Télé. Je trouve que ça fait vraiment du sens et ça aurait dû arriver au début. Mais évidemment, pour chaque fonctionnalité, on se dit tout le temps, ouais, ça aurait dû être là depuis longtemps. Mais là, au moins ça va y être. Une ouverture des protocoles par rapport à Siri, par rapport à la domotique, qui est intéressante avec Matter, M-A-T-T-E-R. TTER, des détections hein, de colis qui arrivent avec votre caméra parce que on se fait livrer de plus en plus à la maison. Alors si vous avez des caméras de sécurité, vous avez ces genres de détections là. Amélioration peaufinement, mais pas encore là comme l'Apple Watch. Pas d'éléments vraiment transcendants cette fois-ci.
Il y aura quand même des nouveaux écrans de veille pour l'Apple TV.
Ça, c'est cool. Ils sont beaux.
Ça, c'est cool parce que franchement, ils sont super beaux. Et des fois, moi, je regarde juste les écrans de veille. Ouais. J'adore celui quand on passe au-dessus du pont à San Francisco. Enfin, il y en a qui sont vraiment super beaux. Ouais. Et là, d'après ce que je vois, la photo avec la montagne et tout, ça promet d'être... C'est vraiment des très, très beaux écrans de veille.
Ouais, nous on démarre iTunes, puis après ça on met l'écran de veille pour en bénéficier. C'est vraiment effectivement très très chouette. Écoute, moi je t'avais je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, c'était tellement dense, il y a eu d'autres informations, on en a oublié, on en a sauté. On a fait un travail pour aller plus vite possible. Étant donné la quantité d'informations qu'on avait, sinon l'émission aurait duré 10 heures. J'espère que ça vous satisfait. Moi, j'avais préparé un dossier. Je pense que je le garde pour le prochain mois parce que de toute façon, il est assez intemporel, mon dossier. Et je te propose, Audrey, d'aller dans la section inspiration, humeur du moment, on va dire ça comme ça. Qu'en penses-tu?
Oui, allons-y. Mais ça me fait envie. C'était quoi ton dossier, là?
Alors,
c'était sûr.
Hier, c'était la fête du Canada, c'est notre fête annuelle, et j'avais retenu trois applications qui sont vraiment cool, qui sont développées au Canada. Je vais vous les passer assez vite.
Application. Fais un peu de teasing là pour le mois prochain, vas-y.
Une application qui est assez particulière s'appelle Ground News, G-R-O-U-N-D. News, qui vient de Waterloo, en Ontario, chez nous, qui a été développée. Et cette application-là recense les éléments d'information, mais vous place cette information-là sur le spectre politique. C'est-à-dire, vous avez une application, vous avez une actualité qui parle d'un élément d'écologie. Ben, graphiquement, vous allez voir en bas quel type de médias, plus à droite, plus à gauche, plus au centre, en ont parlé. Et ça va quantifier un peu l'information pour avoir un certain recul sur l'information et comment elle est traitée. C'est vraiment super intéressant de voir ça. Évidemment, c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est quand même assez intéressant de voir que certaines actualités sont plus traitées par des médias de droite que des médias de gauche, et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment bien fait. Il y a une version payante, mais elle est gratuite. Ça s'appelle Ground News. Elle est bien cotée, là. Elle a un bon pourcentage. La deuxième que j'aime particulièrement s'appelle Milheim. Mil comme repas, Heim comme lime, comme la lime, ce citron vert. La limette, comment on dit en France?
Le saucisson vert?
Le
concombre?
Le citron, j'ai un citron, les petits citrons verts, t'appelles ça comment?
Lime. Ah oui, ouais. Des citrons verts.
Des citrons verts. Alors c'est M-E-A-L-I-M-E. Ça, c'est une application qui va vous préparer des recettes en fonction de vos allergies, en fonction de votre diète alimentaire, de votre régime alimentaire, alors que vous soyez normal, que vous soyez végétarien, vegan, que vous soyez keto, faible en sucre. Vous allez pouvoir sélectionner ça. Vous allez pouvoir aussi ajouter les allergies à travers ça. Et vous allez avoir une disposition de recettes et vous allez pouvoir les choisir. Et automatiquement, ça va vous faire votre liste d'épicerie. Alors évidemment, si dans deux, trois recettes, vous utilisez un citron, des avocats, ça va vous les comptabiliser et les additionner et ça va vous faire ça. Et ça vous permet aussi d'avoir, quand vous faites vos recettes, d'avoir le moyen de switcher, de passer d'un élément de la recette à un autre sans salir votre écran. Parce que ma conjointe, fait des recettes avec le iPad et je suis toujours sur le nerf quand elle fait des recettes avec le iPad parce que le iPad a de la farine, il y a du gras, il y a un peu de tout dans l'écran et ça me fait paniquer. Alors là, avec cette application-là, vous allez pouvoir switcher juste en passant la main. Elle est vraiment, vraiment bien faite, cette application-là. Elle est gratuite, mais vous pouvez avoir des éléments payants pour avoir des recettes un peu plus élevé pour avoir les calories si vous calculez ça. C'est vraiment une application très, très, très complète pour tout ce qui est les accès d'alimentation. Vraiment, je vous la recommande. Évidemment, elle est canadienne, fait qu'elle peut être juste être bien.
Je vais juste envoyer un petit message pour Marlène, la pauvre, parce que elle fait à manger. Non, elle fait moi. À manger. C'est et moi. En plus, elle se fait engueuler. Donc, moi. Marlène, t'as qu'à lui dire qu'il a qu'à faire à manger, puis c'est tout.
Non, c'est moi qui fais à manger à la maison. Mais quand elle décide de faire des recettes, je panique un petit peu pour le iPad et le téléphone. ensuite
de ah, mais ça a l'air cool, hein, en tout cas, cette appli de recettes-là.
Ouais, vraiment, vraiment bien faite et très, très complète. Alors, vous avez l'axe suivi ben, de votre diète, vous avez l'axe suivi de vos allergies, vous avez des recettes, vous avez votre liste d'épicerie. Et pour nous au Canada, quand tu mets les éléments dans la liste d'épicerie, automatiquement, tu as un bouton pour dire, bon, ben, je vais l'acheter dans telle épicerie et puis ça va envoyer la commande dans telle épicerie. Alors, c'est très, très, très wow. complet, là.
Ah ouais. Et, qu'est-ce que vous êtes moderne?
Qu'est-ce que tu veux?
Oh là là.
On est comme ça. En plus d'être parfait, on est moderne, nous les Canadiens.
Et gentil.
C'est des farces. Et, ouais, c'est ça. Et modeste, et modeste, très modeste. La dernière, c'est une application montréalaise qui est bluffante, bluffante parce
et
que.
Et pas chauvin en plus.
Non. C'est une application bluffante. Ça s'appelle Magic Plan. Pour ceux qui font de la rénovation, qui font de la construction, qui font de la décoration. C'est une application que vous devez avoir. Elle se sert du LIDAR ou de l'appareil photo pour détecter les mesures d'une pièce et recréer des plans à une mesure très, très parfaite. Elle est vraiment assez incroyable, cette application-là. Faut vraiment l'utiliser pour comprendre l'avantage de cette application-là. Vous l'ouvrez et tout simplement, vous pointez les angles de vos pièces et elle va recréer le plan en papier. Alors, ce qui fait que pour les décorations, pour l'achat de meubles, pour toutes sortes d'éléments, vous allez pouvoir, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir exporter ces plans-là en PDF, en format Excel si vous avez besoin de tableaux pour les dimensions. Vous allez pouvoir avoir aussi des calculs pour les peintures, combien d'espace, de superficie vous allez devoir couvrir pour des tapis, pour de la peinture, pour de la décoration. Bref, si vous faites de la rénovation, si vous voulez en faire, si vous avez l'intention d'en faire, vous voulez planifier, c'est l'application que ça vous prend. Ça s'appelle Magic Plan, M-A-G-I-C, Plan, P-L-A-N.
Ah, ben, c'est cool.
Finalement, j'aurais fait mon dossier.
Bah oui, parce que ça m'a bien fait envie, là, toutes les captures que tu avais mises. Et je vais essayer, tiens, l'application avec les recettes, là.
Ah ouais.
Parce que c'est vrai que moi qui ai des intolérances alimentaires plus un régime spécial, parfois c'est pas évident de trouver, l'inspiration. Trouver quoi faire à manger. Ouais.
Juste l'inspiration, c'est juste ça des fois. Ouais. On en est à notre moment de pensée et réflexion personnelle. Et là, je vois à côté de Audrey un bonhomme pas content. Qu'est-ce qui se passe, Audrey?
Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors en fait, j'aimerais dire aux gens qui ne créent pas de contenu. Ah là là, je vais me faire des ennemis encore, c'est pas possible.
Sois toi-même, Audrey, sois toi-même.
Ouais, en fait, c'est ça. Il y a un commentaire tout à l'heure qu'on a lu, il m'a dit « reste toi-même ». Alors, je voudrais dire aux gens qui ne créent pas de contenu que créer du contenu, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça peut prendre... Tu vois, là, pour lister tout ce qu'on a listé, ça nous a pris plusieurs heures, c'est du travail. Et nous, on propose notre podcast gratuitement, hein, on en parle tous les deux, voir ce qu'on peut faire à l'avenir, mais globalement, on propose tous les deux beaucoup de contenu gratuit, parce qu'on aime partager ce qui nous passionne, ce qui nous fait rêver, voilà. Donc, pour nous, c'est naturel de partager. Ce que j'ai de plus en plus de mal à accepter, c'est les gens qui me disent, alors que j'ai passé des heures à faire quelque chose, qui vont me dire, oui, mais c'est pas ça qu'on voulait, c'était des infos inédites ou... Il y a un moment, j'ai envie de dire aux gens, mais faites-le. On a tous les mêmes outils sur Internet. On a tous la possibilité d'ouvrir un blog, de publier des choses, d'ouvrir une chaîne YouTube, de faire des vidéos. Donc, à un moment, je veux pas paraître pénible, mais offrir du contenu et s'entendre dire très régulièrement que oui, mais t'aurais pu dire ça ou t'aurais dû faire ça comme ça ou c'est pas ça qu'on voulait lire. Je devrais être plus zen et ne pas prendre ça trop à cœur, mais en fait ça me peine parce que sur 200 personnes qui vont lire un article, il y en a qu'un qui va s'exprimer, c'est celui qui râle, tu vois. Et je sais, Mathieu, tu me dis souvent, mais il faut voir le bon côté des choses, c'est tous les gens qui n'ont rien dit ou qui ont dit merci, mais c'est pas souvent non plus. Donc, j'aimerais bien que les gens qui ne créent pas de contenu se mettent à créer du contenu, qu'ils se mettent un peu à la place des créateurs de contenu et qu'ils voient que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps de réflexion aussi pour essayer de se démarquer un peu, pas faire tous la même chose. Nous, on fait un podcast sur Apple, mais on essaye, bon, forcément, on parle des nouveautés, mais on essaye d'ajouter nos points de vue personnels qui sont pas toujours partagés avec d'autres. Donc, c'est pas toujours évident de se mettre à nu, parce qu'on se met clairement à nu quand on propose du contenu gratuit. Quand on propose du contenu payant, les gens ont tout de suite, il y a une espèce de respect qui se met en place parce qu'ils ont payé. Voilà. Et je le vois, moi, sur ma plateforme, en fait. Les gens sont beaucoup plus polis quand ils payent pour quelque chose. Et par contre, quand c'est gratuit, on entend des choses parfois où on se dit bon bah je vais tout arrêter et voilà et puis ils vont se débrouiller. Tu vois, moi ça m'a déjà traversé l'esprit et je me prends souvent la tête avec des gens sur Twitter notamment parce que je veux pas laisser passer. Tu vois, c'est qu'il y a un moment où on pourrait me dire oh mais Audrey c'est pas grave laisse courir. Mais non, les gens il faut qu'ils se rendent compte que ce qu'on offre gratuitement bah ça a été du temps, ça a été de la réflexion, c'est de l'expérience aussi. Depuis 15 ans, 20 ans qu'on est dans le milieu Apple. Donc voilà, un peu plus de respect, ça serait sympa pour les créateurs de contenu, surtout quand on propose du contenu gratuitement. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de râler.
Mon moment de réflexion va être pour toi, ou pas. Je veux pas te viser particulièrement. Je respecte ce que tu dis. Je te comprends que ça te touche. Mais encore une fois, moi j'ai une technique sur Twitter. Quand quelqu'un me dit quelque chose qui passe de travers, je le bloque. Comme ça, à l'avenir, ben j'ai plus de problème. Et j'en ai beaucoup de gens que j'ai bloqués par le passé.
C'est vrai?
Ah oui, il y a cette fonctionnalité-là. Pourquoi? En fait, moi, je vois ça comme Twitter où mon contenu, je crée, c'est ma boutique. OK? C'est mon commerce. Et ben dans un commerce, je peux décider qui rentre ou pas. Alors, je fais ça, je bloque. Quand je vois quelqu'un qui a un commentaire particulier, je bloque. Il y en a pour qui je bloque ou je me désabonne. Qui sont des fois gentils et bienveillants et je leur explique en privé pourquoi je l'ai fait. Ça m'arrive. Et des fois les conversations sont bien souvent en fait les conversations sont très amicales. Mais j'explique pourquoi je bloque ou que je suis plus abonné à son compte. Hein, bon, ça arrive.
Mais oui, mais en fait c'est ça. En fait, si tu veux, tu proposes un contenu gratuit. On te dit pas merci, on te balance un truc comme quoi c'est pas ça qu'on voulait, t'aurais dû faire ça, gna gna. Et dès que tu rentres dans l'explication avec la personne, tu te rends compte qu'en fait c'était pas méchant ce qu'il disait. C'était pas souvent il te dit ah ben j'aurais pas dû dire ça, mais ou alors c'est bon tu prends tout mal Audrey, on l'a déjà dit, mais il y a un moment si moi je réagis d'une certaine façon c'est pas sans raison, je suis pas là pour casser la gueule sur Twitter aux gens quoi, tu vois, moi je veux la paix des ménages, je veux la paix sur Internet, voilà. Et bien souvent comme tu dis, quand on en parle en privé, et je le fais souvent aussi, mais du coup c'est vrai que c'est chronophage, quand on en parle en privé les gens sont tout doux, ils sont plus calmes. Et ils vont dire des choses en privé qu'ils ne diront pas en public. Et cette espèce de façon de faire, tu vois, un peu passif-agressif, ça m'agace un peu, quoi. Mais je sens que tu vas me proposer une solution, là. Je vois. Je vois avec mon ami...
Je sais pas si ça va être une solution. Est-ce que tu connais Mathieu Ricard?
Oui, je connais. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, d'ailleurs. J'ai parlé de Christophe André, qui est un bon copain de Mathieu Ricard. Et ils ont écrit des livres ensemble et tout. Donc oui, je connais Mathieu Ricard. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, ça s'appelle « Du stress au bonheur »,« From stress to happiness ». C'est sur Netflix. C'est malheureusement pas en français, mais sous-titré en français. Alors, pour ceux qui veulent, c'est quand même accessible. C'est vraiment une quête du bonheur et d'un calme intérieur d'une personne qui invite Mathieu Ricard à aller chez lui, à y expliquer, à devenir son coach pour la méditation, pour des certaines réflexions. Ce que je vous dis là, il y a absolument rien de religieux en arrière de ça. Là, je veux pas vous convertir du tout. C'est pas ça du tout l'objet.
Oui, oui, c'est la méditation, c'est pas religieux. Ouais.
Non, c'est ça. C'est vraiment une réflexion sur comment on est, comment on vit, comment on aborde les choses, comment on aborde les éléments. Mathieu Ricard est très stoïque par rapport à tous ces éléments-là. Et il nous ramène à certains fondamentaux dans ce reportage-là qui sont déconcertants. Bref, je peux pas en dire plus que ça fait du bien à l'intérieur, ça fait du bien d'écouter ce genre de documentaire-là. Et moi, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Alors, vous l'écoutez pas en mode cocktail avec un verre de mousseux ou de champagne à la main, là. C'est pas le type de documentaire que vous écoutez dans un moment stressé ou quoi que ce soit. Faut avoir un moment calme. Faut pas que les enfants courent autour de vous. Faut pas que vous... On comprend, là. C'est pas un... Faut avoir le bon moment pour ce type de documentaire-là. Mais c'est très spirituel et ça fait du bien. Pour vrai, ça fait du bien au calme et à la paix intérieure. Après ça, si t'es capable de réappliquer certains éléments, bon ben, tant mieux. Je vais être content.
Oui, non, mais en fait, si tu veux, c'est là tout le paradoxe de
d'Audrey.
Le paradoxe d'Audrey, nouveau podcast. Alors, mais clairement, si tu veux, on est tous des personnes avec des sensibilités différentes.
Ouais.
Mais moi, sur Internet, j'essaye d'être le plus bienveillante possible. C'est-à-dire que déjà, je ne vais pas me permettre de juger le travail de quelqu'un ou de... Il y a un moment aussi, on a beau être zen, j'ai beau faire de la méditation, j'ai beau être raisonnable, tu vois, je suis pas quelqu'un qui m'emporte vite, tout ça. Mais il y a un moment où, tu vois, t'as des limites et il y a des choses que tu acceptes et d'autres que tu acceptes pas. Alors comme toi, peut-être que t'as raison, ta solution, c'est de muter les gens, enfin, tu les mutes et puis tu les bloques. Moi, c'est pas une solution que j'ai appliquée. Peut-être que je vais le faire. T'as peut-être raison. Je te dirai. On en reparlera. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai parlé de ça parce qu'en fait, en quelques semaines, je me suis pris des réflexions non justifiées, si tu veux, et mis bout à bout, ça faisait beaucoup. C'est pour ça que là, j'ai eu un petit ras-le-bol. À un moment, j'en ai eu marre. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens très bienveillants qui nous suivent sur Twitter, toi et moi, et globalement, c'est une expérience positive, sinon j'y serais plus, bien évidemment. Voilà, le tout est de prendre du recul à l'instant T, et c'est le plus compliqué, je trouve, comme dans la vie, quand tu croises quelqu'un et qu'il t'agresse, c'est hyper difficile de se dire, alors attends, il me veut pas du mal, en fait, il est juste énervé, Audrey, tout va bien, tu vois, non, mais ouais. C'est pas facile. Et non. Sur Twitter, tu reçois un tweet, tu le lis, en plus, t'as pas l'intention dans les messages écrits. C'est aussi très compliqué. Mmh. On a tous une interprétation différente de certains mots, donc...
Il y a un état d'esprit aussi quand tu les lis, là. Des fois, c'est peut-être pas le bon moment de lire certains messages, puis tu réagis.
C'est ça. Donc, tu vois, focus... Ça va être très bien pour ça, parce que pour revenir aux nouveautés d'Apple, c'est qu'on va pouvoir dire les notifications de Twitter, eh ben je les prends que à partir des 18h où je suis reposée et apte à répondre calmement aux tweets. Tu vois, voilà, en fait, peut-être que la solution est là, je sais pas. Mais soyez bienveillants, s'il vous plaît, avec les gens et surtout avec les gens que vous connaissez pas, en plus, sur Internet, quoi.
Alors du stress loin du stress
avec Mathieu Ricard. Ouais.
Avec Mathieu Ricard, ça je vous le conseille, c'est sur Netflix. Un deuxième truc avant de partir que je veux absolument vous partager, ça s'appelle La ferme de Clarkson. Est-ce que tu connais Jeremy Clarkson, Audrey?
Non.
Alors Jeremy Clarkson, c'est un journaliste auto qui est un des trois dans Top Gear, pour ceux qui connaissent ça, un des trois journalistes. C'est un gars qui fait souvent la polémique, c'est un gars qui a un fichu caractère, qui est très très drôle, un Anglais, qui a fait une télésérie qui a laissé tout le monde sur le derrière, parce que c'est une télésérie qui parle de ferme et d'agriculture, alors que le gars, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, qu'il fait de la promotion de grosses Ferrari, avec des gros moteurs V12 qui polluent, et ainsi de suite. Et là, il a fait une série documentaire, avec son style, sur l'agriculture. Il a fait ça en plein temps de pandémie, avec sa femme, vraiment là sur le cul. IMDb le côté 9.3 sur 10, qui est excessivement rare quand ça dépasse 9 sur IMDb. Je vous la conseille, c'est sur Prime Video, si vous pouvez l'avoir en abonnement. Et on passe du gars qui connaît rien à un gars qui comprend un peu plus le phénomène de l'agriculture. On a tendance à se plaindre des agriculteurs, on a tendance à se plaindre de certains éléments de ça, mais quand on comprend l'envers de la médaille, C'est des fois une autre réalité. Et on passe de l'agnolage, là, de la naissance d'agneau, on passe à la culture, on passe à réserver des éléments, à réserver des zones pour l'écologie. Et c'est très, très drôle. Bien fait, bien monté. J'en ai des frissons en vous en parlant parce que c'est franchement un super bon moment qu'on a passé avec Marlène. Et même les enfants, ça s'écoute super bien. Bref, ça s'appelle La ferme de Clarkson. Et écoutez ça, c'est vraiment chouette.
On va regarder sur Prime Video.
Ouais, malheureusement, c'est sur Amazon, je suis désolé.
Cet épisode n'est pas sponsorisé par Amazon Prime, ni Netflix, ni Apple, oulala.
ça va mal, Audrey. Audrey, pour terminer, tous ceux qui veulent te rejoindre, tous ceux qui veulent suivre avec bienveillance ou te donner des commentaires avec bienveillance sur ce que tu fais, tes créations gratuites, ou s'abonner ou acheter une de tes formations, comment on fait?
Alors, pour toute correspondance bienveillante et critique positive, constructive, je dirais, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @AudreyCoulot, ou sur formationapple.fr sur mon site web. Et toi, Matt, on te rejoint où?
profduweb.com, et vous avez tous les liens qui vont bien avec un site ultra minimaliste. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier s'il fonctionne encore. Il est tellement minimaliste que j'en ai pas de nouvelles.
Alors, sinon, @profduweb sur Twitter, on peut échanger... un peu en décalé hein, avec la France, mais on échange toujours de façon sympathique. Et sinon, bien sûr, on oublie toujours, Mathieu, le compte Twitter de notre podcast, quand même.
Oui, oui.
@AppleDiff, hein, on échange aussi pas mal là-bas.
Absolument. @AppleDiff sur Twitter, @AppleDiff sur Instagram. Ouais, on se force un peu sur Instagram, mais Twitter, ça va quand même assez bien. Alors, n'hésitez pas à échanger avec nous. On se retrouve le mois prochain. On va être encore en période estivale, en mode estival. Là, c'était un gros épisode bien dense, mais ben, vous avez compris, hein, le sujet s'y prêtait. Et on se retrouve le mois prochain. Et on vous souhaite un très bon été, un très bon début de vacances. Audrey, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs?
Un bon mois de juillet.
Ouais. Pour moi, je dis. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye bye.
Salut, à bientôt. Hey.